Hey, how you doing?
Danger, Will Robinson.
I am the danger.
C'est moi qui fais ça.
Ouais, c'est pas faux.
The state will self-destruct in 5 seconds.
Oh boy.
Et bienvenue à tous, chers auditeurs, dans ce nouveau podcast d'une bien nommée rétro-série et qui va vous emmener dans un voyage temporel au sein du petit écran. Depuis les années 2010 à remonter jusqu'aux années 1950 à peu près, parce qu'on s'est dit qu'avant il n'y avait pas trop de télé, donc c'était un peu compliqué.
Ouais, c'était dur.
Et pour m'accompagner dans ce voyage temporel, j'ai trois amis, trois chouchous, trois chroniqueurs que vous allez apprendre à aimer autant que moi si vous ne les connaissez pas. Et je vais commencer par les demoiselles. Je commence par Lalou.
Bonjour.
Ça va,
ça va, je vais essayer de ne pas avoir une voix de téléphone rose pendant tout ce podcast. Sinon, on va vite être strikés moins de 18.
Je t'avoue que j'ai aussi cette tendance-là, vu que je présente, je fais « bonjour, comment
t'es ?» Mais va bien, et vous ?
Un plaisir auditif de tous les instants.
Pour allez.
Nous, il y a également Romain.
Bonsoir à tous. On va tous parler comme ça, du coup.
Non, mais vous allez voir, on va se détendre, ça va aller mieux après. c'est la première, on est tendu, mais on va se détendre. Et enfin, il y a aussi Greg.
Oh oui, on nous sommes tendus comme des strings. Si tu cherches une relation dans le... Pardon. Oui, bonsoir. J'ai voulu prendre mon accent maïté, mais c'est pas tout le temps, je le maîtrise
pas.
C'est
ça ton accent sexy, Greg ?
Ouais, sexy du sud.
Ça fait surtout plombier du porno, quoi.
Oui, un peu.
Non, mais on regarde pas les mêmes pornos, c'est intéressant. Ah.
Ben moi, je regarde des pornos peut-être des années 60, tu vois, comme rétro-série, quoi, tu vois. Ah, sale.
C'est beau.
Ah là là, mais attends, cette transition tellement trop bien travaillée, mais comment est-ce que...
C'est fou, moi.
Pour ce premier épisode, pour ce pilote de rétro-série, nous allons retourner dans les années 1964, soit environ 25 ans avant notre ère, si on prend en gros une moyenne de nos dates de naissance. Et puis on est bien d'accord que l'important, c'est nous.
Exactement. Donc, comme Jésus, voilà, notre année est à marquer.
On est à moins 25, ok.
On est à moins 25. Cette année-là, comme le chantait Claude François 2 ans plus tôt, Charles de Gaulle était au pouvoir chez nous, avant de devenir un aéroport, je crois. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, le démocrate Lyndon D. Johnson venait de succéder à JFK, qui a disparu, on ne sait pas trop comment,
ouais.
À Dallas.
Ouais, je crois qu'il y avait un truc avec une fusillade, mais je ne suis pas sûr.
Et son univers incroyable, c'est peut-être pour ça, et impitoyable.
C'est surtout impitoyable.
Plus qu'incroyable.
Au cinéma, on a eu le droit à Louis de Funès qui a cartonné avec le gendarme de Saint-Tropez.
Multi rediffusé.
Depuis, oui. Je crois qu'on sait ce que c'est, le gendarme. Il y a eu des suites aussi, il me semble. Mais par contre, ce sont les parapluies de Cherbourg qui ont remporté la palme à Cannes. Par contre, aux États-Unis, c'est Mary Poppins qui enchantait les foyers. Mais My Fair Lady a remporté 8 Oscars. Dans le monde entier, tout le monde se trémoussait sur les chansons des Beatles. Un petit groupe dans le vent, il paraît, qui occupait le haut des charts. Mais par contre, en France, on était un peu plus Charles Aznavour, Claude François, et puis aussi Johnny et Sylvie, qui se marieront la nuit suivante.
Attends, mais ils existaient déjà à l'époque, eux ?
Eh oui !
Ah bah Johnny et Sylvie, évidemment, c'est les...
Ah ouais. Il
se passait des choses en moins 25.
Oh là là !
Quelle année, le moins 25 ? Bon, par contre, je suis désolée, mais cette année-là, on n'a pas gagné l'Eurovision. On n'était que 4e.
Ah, c'est déjà bien.
Avec le chant de Mallory. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cette chanson, perso, je ne l'ai jamais entendue en France.
Non, jamais.
Et le concours a été remporté par l'Italie, qui donc a accueilli l'année d'après. Pour le côté sport, les JO étaient à Tokyo, comme l'année prochaine, comme nous l'a fait bien remarquer Greg. Jack Hongtil, Jack, pardon.
Jack Non, c'est Jack Kennedy et
Jacques Hongtil. Il a été vainqueur du Tour de France et les Verts Saint-Etienne étaient champions de France. Plusieurs personnalités de télé ont vu le jour durant cette année et vous avez pu, si vous nous suivez sur Twitter, suivez-nous, Rétro Télé Podcast. Vous avez pu voir que Doug Savant et Terry Hatcher, qu'on a vu ensemble dans Desperate Housewives, étaient nés cette année-là. Également Courtney Cox de Friends, Calista Flockhart d'Ally McBeal, mais aussi Jamie de C'est pas sorcier. Alors oui, d'accord, c'est pas tellement les séries télé, mais Greg voulait absolument qu'on en parle parce que il est né le même jour que Michel Obama. C'est la classe, c'est la grande classe. Enfin, sur une note un peu plus triste, parmi les décès de cette année-là, on compte le romancier Ian Fleming, dont on reparlera plus tard dans l'émission, et je crois que c'est moi qui vais en parler.
Oui.
Et pour ce qui concerne notre émission, justement, nous allons aborder aujourd'hui quatre séries qui ont débarqué sur le petit écran, donc en moins 25, soit 1964. Tout d'abord, Romain nous présentera une étrange famille qui s'appelle la famille Adams. L'ami des animaux, Greg, nous parlera de Flipper le dauphin.
Ouais.
Et on a tellement hâte.
C'est vrai, tous, grave.
On a très hâte.
Puis Lalou nous apprendra comment allier magie et vie de famille en abordant ma sorcière bien-aimée. Oui. Et elle va remuer son petit
nid.
Et enfin, je vous parlerai de deux agents très spéciaux, ou en anglais, The Man from U.N.C.L.E. Ouh là là, quel beau programme!
Ce sommaire de fou furieux!
Ah ouais, mais c'est la folie quoi, c'est un pilote de malade! Et ça claque le moins 25.
Ça claque.
Et donc pour entamer 1964, Romain, je te laisse la parole.
Yes! Ok, c'est parti! Alors pour cette toute première review de Roro, je vais avoir besoin un petit peu de votre aide. Donc si je vous fais. Vous faites?
Toum!
Il faudrait plutôt faire des clap-clap. Okay, donc okay. Encore une fois, pour que ce soit plus fluide. Donc, si je vous fais. Ouais. On va dire que ça marche.
Il y en a qui sont dans le sud, il y en a qui sont dans le nord, il y a un décalage horaire. Voilà, quoi.
Tu vois, quand j'ai écrit la chronique, j'étais en mode ça va pas marcher, mais je le tente quand même. Et ben j'aurais pas dû. Bref, donc c'est absolument pas une surprise, hein, évidemment. Je vais vous parler de la famille Adams ou The Adams Family. Voilà, j'avais envie. Donc c'est créé par David Levy et diffusé pendant deux saisons aux États-Unis sur le réseau ABC entre 1964 et 1966. Donc petite particularité, c'était dans la case du vendredi soir, qui est considérée aujourd'hui en 2019 comme une case morte sur les réseaux network américains. Donc voilà, c'est assez surprenant. C'est un format qui dure 20 minutes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous savez, je vous pose la question autour de la table, est-ce que vous savez d'où vient l'inspiration de la série?
Oui.
Oui.
Alors on a un oui et
oui.
Et c'est un troisième. Oui, ouais, je pars à Baltar. Merci beaucoup. Donc, je vais vous expliquer. Donc, c'est Charles Adams, qui est un dessinateur américain qui a été fréquemment publié dans The New Yorker et qui a fait sa réputation grâce à ses personnages lugubres et son humour macabre. D'où, voilà, c'est comme ça qu'est née la famille Adams. Donc, pour en revenir à la série, ça se concentre donc sur une famille nucléaire quelque peu étrange d'un point de vue extérieur. Hein. Donc, on a un serviteur de maison qui ressemble à une créature de Frankenstein. Soit, un oncle en apparence pas du tout futé, et une grand-mère aussi qui a potentiellement dû oublier ses médocs. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, toute la famille est complètement déconnectée de la réalité, et c'est là du coup où réside l'humour de la série. Voilà, on va suivre le quotidien de cette petite famille complètement étrange. Donc je sais pas pour vous autour de la table, moi je trouve, enfin, en 1964, ça passait peut-être, mais en 2019, moi je trouve que c'est pas trop le cas. Moi, le truc surtout qui m'a énervé dans ce pilote et dans les autres épisodes que j'ai vus, c'est qu'en fait, il y a des rires enregistrés sur le plateau. Alors, je ne sais pas si c'est enregistré ou si c'est directement en plateau. Je ne sais pas si Greg, tu as plus d'infos.
Non, c'est pas en plateau. Non, c'était enregistré.
Voilà, c'est enregistré. Et en fait, le truc, c'est que ça paraît ultra forcé, mais presque à chaque fois, et c'est pas drôle du tout. Genre, Morticia, dans l'épisode 7, donc, qui est un épisode spécial d'Halloween dans la saison 1, elle verse un liquide noir dans le punch, et là, c'est la débandade en plateau. Genre, les gars, sérieusement? Enfin, c'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle en fait.
Ouais, c'est vrai que... Ouais,
donc voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a choqué. Donc j'ai regardé le pilote, l'épisode 7 de la saison 1 et la fin. Et ben, c'est toujours la même chose. Enfin, toujours la même chose. Ils sont tous à chaque fois dans leur maison où il se passe plein de choses. Il y a des personnages extérieurs qui arrivent et ils sont confrontés en fait à la réalité des Adams, qui est pour eux une réalité qui semble normale, mais pour les autres pas du tout. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça à chaque fois. Il n'y a pas forcément d'évolution en termes de personnages. Ce sont des gars qui sont assez récurrents. Tout ce qui est toujours la même chose avec la porte qui sonne ou le courrier qui arrive et la chose qui donne quelque chose. Enfin bref, voilà, c'est souvent comme ça. Donc je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé autour de la table de ces épisodes de La Famille Adams, si vous en avez un souvenir particulier ou pas. Moi, c'était une découverte totale. Je n'avais jamais vu cette première série. Et on va discuter juste après des autres adaptations.
Voilà, j'allais te demander si tu avais vu les autres adaptations, mais du coup, on garde ça pour plus
Exactement.
tard. Moi, personnellement, j'avais jamais vu cette version. Et bah, on n'est pas perdu hein, quand on connaît un peu les personnages.
Oui,
On
ça va.
voit très vite qui est qui. Hein, le physique est resté à peu près le même dans toutes les adaptations, je trouve. Par contre, voilà, c'est sympathique. Moi, j'ai pas fait gaffe au rire enregistré, mais je crois que je suis complètement immunisée à ça. Donc, c'est peut-être pour ça.
Ah, mais c'est bien.
Ah non, mais ça me dérange pas. Peut-être parce que voilà, j'ai été élevée à Friends, version française, et du coup, c'est tout le temps les mêmes rires. Donc, j'ai appris à faire abstraction. Non, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai vu que le pilote. Après, voilà, c'est clair que moi, j'ai dans la tête, j'ai le film avec Christopher Lloyd que j'aimais beaucoup. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et l'esthétique est vraiment très
Ouais,
cool.
ça
Enfin,
va.
en plus, en noir et blanc, c'est parfait,
Ouais.
quoi.
Non, et puis même, il y a pas mal de recherches en termes de décor. Enfin, visuellement, c'est sympa. Et les effets spéciaux font pas trop de
Bon, ouais,
cheap.
ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne
Ouais,
bien.
ça fonctionne bien.
Parce que comme tu dis, on est dans un truc très théâtral où c'est tout le temps à l'intérieur. Donc, par exemple, ce qui est accroché au mur, tout ça et tout, je trouve que c'est moi, j'aime, enfin, comme tu dis, en fait, on rentre tout de suite dans l'ambiance. Moi, j'avais vu les films, j'avais vu les séries. Moi, je suis assez fan d'Adams, même de Chase Adams, ses dessins et tout. J'ai un bouquin chez moi. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup et tout ce qu'il a créé, j'aime beaucoup. Et du coup, c'est vrai que je trouve que dans la série, alors moins, on en reparlera des autres adaptations, mais dans cette série-là de 64 et dans les films, on rentre tout de suite dans l'univers et je trouve effectivement le décor un peu théâtral avec il y a des cages à oiseaux énormes
Ah,
qui
c'est
sont
exactement
très
ça.
anciennes, qui font très victoriennes, les habits. Et puis moi, surtout, un truc que j'ai remarqué et on en reparlera avec les autres adaptations, c'est que dans la série, aussi bien que dans les deux films, je dis bien les deux films, La Famille Adams et Les Valeurs de la Famille Adams, ce que moi j'apprécie énormément, même si on est d'accord que ça se répète beaucoup, c'est le casting. Je trouve que les personnages, je trouve que ça fonctionne bien, à la fois dans le film et dans cette série-là, c'est Morticia et Gomez notamment, et les gamins aussi, je trouve que ça marche bien, et enfin, Fetid aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne bien, tous fonctionnent assez bien à leur niveau. Lurch, le majordome et tout ça,
Ouais.
je trouve que c'est un truc assez bien huilé, qui marche vraiment bien, et qui avait pas l'air hyper facile à adapter comme ça au début, avec des personnages qui, à la base, dans ce qu'a écrit Chase Adams, en fait, il y a que c'est des petites bulles, donc il y a écrit un
Oui, à
mot
la base,
par-ci,
ouais.
un mot par-là, ouais, une petite blague, c'est quand même pas c'est pas une BD, c'est pas un comic, c'est rien, c'est vraiment des petites bulles, donc ils avaient même pas de prénom dans la version dessinée par Chase Adams, donc il a fallu tout créer, et je trouve que dans cette adaptation-là de 64, c'est propre. Moi,
C'est
j'ai
propre.
été, ouais, c'est sympa, voilà.
C'est bien, c'est une mécanique bien huilée, ouais. C'est
Ouais,
ça.
après, t'en regardes pas 10, c'est sûr, parce
Non, ouais.
que.
Et la loupe, toi, t'en as pensé quoi?
Bah écoute, moi justement, j'ai trouvé que le premier truc qui m'a choqué dans ce que t'as dit, vraiment, c'est que moi, je les ai pas entendus les rires, en fait.
Ah ouais? Oh, moi, j'ai entendu que ça.
En fait, c'est drôle parce que tu vois, tu me parles de rire et en fait, j'essaye vraiment de me rappeler et je me rappelle pas avoir entendu de rire. Donc je pense que ça m'a absolument pas choqué.
Mais je les ai pas non plus, hein.
Ouais, ça m'a
Ah, moi je
appris.
suis d'accord. Le seul truc, pardon, je te coupe de. Excuse-moi.
T'en prie, je
C'est
t'en prie.
juste le truc, comme je suis d'accord avec Romain, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est pas tant les réenregistrer parce que t'es un peu habitué, mais c'est le fait qu'ils soient effectivement mis à des moments où il n'y a
Ou
pas
c'est pas drôle.
forcément un gag. C'est-à-dire que par exemple, au moment, il y a un mec qui rentre, effectivement, il fait des gros yeux, donc là, il y a un premier rire. Puis au moment, il y a un enfant qui lui tire, qui, par exemple, dans le premier épisode, il y a genre Mercredi qui lui prend la main et qui l'amène avec elle, et là, il y a un rire. Et là, tu fais,
Ouais.
d'accord, ah, ok. Donc, c'est plus l'abondance, moi, qui m'a choqué.
Ouais. Bah écoute, ouais, non, moi ça m'a pas choqué. Par contre, ce que j'ai particulièrement remarqué et ce que j'avais oublié, c'était à quel point les décors avaient été hyper soignés. C'est
Ouais.
fou comme on est dans un truc vraiment tout droit sorti de. Enfin,
D'un
moi ça me fait
conte,
beaucoup. Voilà,
Minute.
ça m'a beaucoup inspiré ces décors. J'ai presque envie d'avoir la même chose chez moi. Non, mais vraiment, et c'est rare que je ris, franchement. En regardant une série. Et là, vraiment, je me suis marrée. Je me suis marrée tout le long. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment. On est vraiment dedans, quoi. On rentre tout de suite dedans, on rentre tout de suite dans leur univers, alors que ça pourrait faire peut-être un peu peur à l'époque. Hein. Enfin, en tout cas, pas peur, mais surprendre.
Un peu clivant,
Ça
ouais.
peut surprendre. Et en fait, je trouve qu'on est invité dans leur univers sans s'y sentir mal à l'aise très, très rapidement. Et voilà, j'ai pas trouvé ça ni. C'est pas trop tiré par les cheveux. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé que ce soit le film ou les adaptations ou la série.
Et ouais, et en plus, je trouve que pour le coup, là, on va en parler, je pense, tout au long de la soirée, mais ça a quand même moins mal vieilli. Malgré l'aspect noir et
Ouais, que
blanc,
d'autres, ouais.
malgré l'aspect machin, parfois sur les thèmes, sur le jeu. Je trouve que ça a moins mal vieilli que certains autres dont on va parler ce soir, quoi.
C'est même plutôt actuel.
Ouais, ouais, carrément.
Ouais, surtout le premier, là.
Bah oui, quand on voit la façon dont Morticia s'adresse à son mari, on est quand même sur, clairement, c'est elle la boss, quoi.
C'est ça, c'est clair.
Voilà, le fait de ne pas vouloir emmener les enfants à l'école. Enfin, moi, j'ai absolument pas été... J'ai même été surprise du féminisme, ce serait un grand mot, mais de la modernité de la série. Je trouve que c'est peut-être la plus moderne dont on va parler pendant cet
clairement.
Épisode.
Ah, carrément. Je suis tout à fait d'accord.
Et même le côté... l'époque, le côté renversé, c'est que c'est vrai que c'est Gomez qui est Papa Poule, quoi. Et qui en 64, il dit une phrase, moi ça m'a même fait rire, je l'ai même écrit, c'est « Tu ne peux pas envoyer les enfants à l'école, je vais être perdu sans eux. » Et c'est assez drôle, quoi. C'est lui qui prononce cette phrase, alors que dans les autres séries dont on va parler, c'est pas tout le temps évident, quoi.
Oh, tu sous-entends qu'il y a des séries sexistes un peu dans ce qu'on va...
En 1964,
oh, Flipper, Flipper, entre les dauphins, on n'en parle pas tout de suite. Spoiler alerte, mais bon.
Spoiler alert chez les animaux, ça craint.
Ouais.
Pour la suite. Donc là, c'était le pilote, mais la série en elle-même.
Mais la série en elle-même, alors personnellement, j'ai vu aucune évolution. Enfin voilà, comme on l'a dit, ça donnait l'impression d'être une mécanique ultra bien huilée. Et en fait, dans les deux autres épisodes que j'ai vus, ça avait l'air exactement de la même chose en fait. Genre pour l'épisode d'Halloween, ce sont des braqueurs qui arrivent au sein de la famille. Et ils vont être surpris par la maison, ce qui était déjà le cas dans l'épisode pilote avec l'inspecteur académique qui vient pour amener les enfants à l'école. Et voilà, il découvre la maison, il se passe des trucs étranges, il est surpris, et on est exactement sur la même chose. Pareil dans l'épisode final avec la cousine de Morticia, si je dis pas de bêtises, et cousin machin de Morticia. Là aussi, il arrive des trucs par rapport au prétendu mariage de la cousine, enfin bref. Et en fait, c'est toujours la même chose, plus ou moins. Donc, il n'y a pas forcément d'évolution possible en termes de personnages. D'ailleurs, on ne voyait pas qu'il y avait presque un an qui s'était passé entre les deux saisons. Enfin, j'avais vraiment l'impression de revoir exactement le même truc, comme si c'était un épisode qui s'enchaînait, en fait. Et il n'y a pas, en plus, le truc, à ma grande déception, il n'y a pas de conclusion, en gros, par rapport à cette famille. Enfin, même vu qu'il n'y a pas d'intrigue fil rouge ou feuilletonnante tout au long de la série, ça se termine, en fait, c'est un épisode comme les autres et c'est terminé, quoi, en fait. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage pour l'évolution de la série, quoi. Après, ça correspond aussi à une époque où, voilà, il fallait capter un public par rapport à une heure d'écoute. Il devait prendre en cours l'épisode, il ne fallait pas que ce soit assez narratif comme ça sur plusieurs semaines. Ça pouvait se prendre à n'importe quel moment de la série, à n'importe quel moment de la série ou à n'importe quel moment de l'épisode. Donc, voilà, en remplaçant dans le contexte, ouais, c'est un petit peu dommage.
C'est très ça pour le coup, elle garde un aspect très sitcom où d'un épisode à l'autre ils reviennent un peu au niveau zéro, ils n'ont pas appris grand chose, ils évoluent pas. Ça, c'est sûr que pour le coup, elle est là-dessus. Tu regardes le premier épisode, le dernier, le milieu, le tout ça, à part les nouveaux personnages qui sont toujours aussi marrants quand on connaît, surtout quand on connaît pas, par exemple, cousin machin, Ophélia, la cousine, enfin tous ces personnages, mais même Fétide quand il y a un épisode uniquement sur lui ou sur les enfants ou tout ça, c'est drôle de découvrir. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même, je crois, il y a 60 épisodes, un truc comme ça. Non, il y a 62, deux saisons, mais il y a que deux saisons, mais ils arrivent à en faire 62 épisodes, ce qui est quand même assez énorme en termes de production.
C'est des saisons 30 épisodes.
Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ils n'ont pas 62 personnages à nous faire découvrir à chaque fois. Alors, c'est un peu tout ça. Donc, heureusement, ce qui tient, moi, je reviens là-dessus, ce qui tient, c'est, on a parlé des costumes, des décors, des tout ça et compagnie, mais ce qui tient, moi, c'est un peu le casting. Moi, je vous dis, Morticia et Gomez, comme ça fonctionne en termes d'alchimie et tout ça, ça te permet peut-être d'en regarder deux, trois, tout ça, machin. Après, les autres, après, c'est vrai qu'en termes d'intrigue et tout ça, c'est zéro, quoi. Comme tu dis, il n'y a pas de fil conducteur.
C'est ça. Mais après, les enfants, ouais, je pense que j'aimerais bien voir d'autres épisodes sur les enfants. Je pense qu'il doit y en avoir au cours de la série, hein. Parce que mercredi, et par contre, j'ai complètement oublié le prénom du frère. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle.
Pugsley,
ouais. Et je trouvais que vraiment dans le pilote, c'était intéressant de mettre mercredi en avant. Et donc, ouais, je pense que si je dois regarder d'autres épisodes de la série, ce sera principalement sur les enfants, ouais.
Ouais, après sur les enfants, c'est vrai qu'il y en a pas mal, mais c'est le souci, c'est que comme dans beaucoup de séries, en fait, les enfants, pour les faire travailler, c'est
difficile.
C'est logique, hein, c'est le travail des enfants. Et c'est vrai qu'ils n'apparaissent pas énormément. Il y a des épisodes où tu ne les vois pas pendant 3 semaines, quoi. Enfin, moi, j'en avais regardé à l'époque, j'avais emprunté les DVD, j'en avais regardé comme ça, deux par-ci, deux par-là. Et il y a des moments où tu ne les vois pas du tout. Et puis, effectivement, heureusement, il y a quelques épisodes uniquement sur eux, quasiment. Sans spoiler, mais il y a notamment l'histoire avec un animal de compagnie qui s'avère être Je vous le dis pas comme ça, c'est un peu marrant, mais en gros, ils veulent un animal de compagnie, les enfants, un peu comme dans toujours ces histoires et tout ça. Et eux, ils veulent pas un animal de compagnie, ils veulent pas un chat ou un lapin, quoi. Vous imaginez bien. Donc, ça prend des proportions un peu catastrophiques à ce niveau-là et tout ça. Mais tu as plus de chance, en fait, ce qui est intéressant par rapport à la série. Alors, quand on aime l'univers de la famille Adams, c'est qu'en fait, tu passes presque plus de temps avec la grand-mère. Et avec Fétide. Mmh. Alors, Fétide, dans les films, tu passes beaucoup de temps avec parce qu'il est beaucoup mis en avant, bien mis en avant. Mais la grand-mère, par exemple, tu la vois très peu dans les films. Elle est plus dans un coin à faire des blagues un peu de temps en temps. Et c'est peut-être plus ça, après, dans les gens qui regardent un peu, c'est de la voir, elle, un peu plus. Mais sinon, effectivement, les enfants, tu les vois pas énormément.
Pas tant que ça. Ouais.
Ils sont beaucoup crédités, mais voilà, après, il y en a 64, donc c'est pas mal. Mais ils vont peut-être être dans peut-être 20-30% des trucs, quoi. Pas beaucoup plus, quoi. Il y a même une histoire. Alors par contre, il y a un que j'aurais pu vous, dont j'aurais pu vous parler, machin. Il y a une histoire, je crois, d'un moment avec Lurch, le majordome, et ses histoires d'amour. Et ça, c'est aussi assez drôle, du coup. C'est comme on disait, une des facettes d'amener un personnage sur un épisode d'un personnage. Et comme ils ont un univers assez foisonnant, du coup, tu peux effectivement de temps en temps te mater un épisode et voir un truc un peu rigolo, quoi.
Non, et puis je trouve que comparé aux autres séries dont on va parler, c'est l'humour est pas. Bon, peut-être que les rires enregistrés, moi, ça m'a pas choqué, mais je comprends. Bah, l'humour est pas si lourd, en fait.
Oui, ouais, enfin, moi j'ai pas trouvé que c'était lourd, genre
c'est pas
ça va,
fin,
mais c'est que
pas
voilà, c'est juste en fait que vu que c'était appuyé par les rires enregistrés, enfin il y a certaines situations comiques qui ne l'étaient pas en fait.
Ouais.
Mais après oui, ça fait toujours rire. C'est comme on a dit, enfin ça ressemble vraiment à une pièce de théâtre, genre tu vois, genre trébucher sur la peau d'ours ou par exemple la chose qui se retourne, qui ferme la porte à clé, les personnages veulent sortir. Enfin, tu vois des petits trucs comme ça où oui, on est carrément sur un truc théâtral. Et c'est du classique qui marche, quoi.
Bah, surtout que c'est effectivement, en plus, c'est très gadget. C'est-à-dire que le portail qui veut mordre les gens qui passent, des trucs comme ça, c'est vrai que ça fait une petite blague et tout.
Ou qui s'ouvre à chaque fois qu'il y a quelqu'un.
Ouais, voilà, donc ça, c'est un peu drôle avec le fait.
La boîte aux lettres.
Oui, ouais. Voilà, tout ça, c'est des trucs, effectivement. La
on liane, sonne à la porte.
C'est ça. Avec rien que le gong avec une corde de pendu quand même, tu vois, c'est comme en fait ça amène effectivement par rapport aux séries de cette époque-là et même encore aujourd'hui, comme c'est un peu plus absurde, c'est sûr que ça, moi c'est un truc qui me plaît bien, quoi. C'est un peu plus décalé par rapport à d'autres trucs.
Et sinon, au niveau des adaptations, donc de l'héritage de cette série, que nous en reste-t-il?
Oh là là, mon Dieu, il y a eu tellement de choses. Alors, je crois que moi, j'avais vu la nouvelle Famille Adams, c'est ça? Qui était diffusée sur M6, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
Ah, c'était M6, je sais plus.
Non, sur TF1, je dis une bêtise. Hop. C'était sur TF1, et je crois que j'ai vu aussi des dessins animés qui sont sortis. Ah voilà, c'est plus ça, la Famille Adams de Ron Mikrik, qui est sortie sur Canal+, et qui a été diffusée sur Cartoon Network, et Boomerang, et France 2, enfin bref. Donc ouais, il y a eu pas mal de choses et puis ouais, c'est limite un classique de la télévision. Maintenant, la famille Adams, c'est tellement une famille atypique que dans le paysage audiovisuel, enfin, elle a marqué une génération par justement sa différence. Et il y a, je crois qu'il y a un film bientôt qui va sortir en plus.
En 2019. Ouais.
Mais c'est un dessin animé.
Ouais, dessin animé. Ouais, dessin animé.
Voilà, c'est une famille qui est culte, quoi. Qui est culte.
Qui va sortir le 4 décembre chez nous.
Exactement. Ouais.
Yes. Avec des voix en plus, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, en fait, comme c'est un truc un petit peu mythique et tout ça, quand ils le produisent assez bien, parce que là, par exemple, dans les voix qui vont être faites, tu as quand même Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloé Grace Moretz, c'est pas un petit truc et tout, c'est assez drôle d'avoir des... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une production, quoi. C'est pas juste on fait ça de temps en temps parce qu'on sait pas quoi faire et tout. C'est, du coup, tu dis, ils font quelque chose derrière, ils essayent de faire ça bien. Donc ça me plaît bien. Ah bon, après, il y a aussi eu, comme tu disais, la nouvelle famille Adams, qui était une catastrophe pas possible, qui était vraiment, pour le coup, moi, quand j'avais vu ça, ça m'a fait penser au nouveau Tex Avery. Le côté, on prend un nom, on fait un truc, on fait des trucs foufous, on fait des effets très plastiques, très années 90. Et du coup, ça, c'était assez pénible à regarder. Assez douloureux même, surtout que c'était pas très loin des films, t'étais même pas 10 ans après, donc du coup passer de l'un à l'autre, c'était un peu douloureux, mais le plus gros héritage, bah, c'est, bien sûr c'est les films, moi je les ai en DVD, je peux les regarder une fois par an, voire plus, ça me dérange absolument pas. Je pense que c'est l'un des rares films que quand je le vois à la télé, je me sens quasiment obligé de le regarder, donc voilà.
Et puis même en termes d'esthétique, tu vois, sur certains trucs, ça m'a fait penser au Rocky Horror Picture Show, genre tu vois, sur cette ambiance assez baroque, donc je pense que ça a dû inspirer pas mal de films, tu vois, dans cette vague, avec un petit côté fantastique,
Et puis la maison, la maison, rien que le côté de ces maisons très très victoriennes, un peu sombres, un peu sales, un peu tout ça, ça peut donner un côté ça a inspiré énormément de choses. Mais il y avait eu ce film, ce truc d'animation, justement, La Maison Hantée ou quoi que ce soit, je crois, en, un dessin animé il y a une vingtaine d'années. Et c'était quasiment exactement la même maison que dans les films, en fait. Et c'était une maison, enfin bon, c'est une maison basique, hein, elle est pas, c'est pas la maison de la famille Adams, mais elle ressemble quand même à une maison particulière. Et elle avait, c'est un truc qui inspire beaucoup. Donc, comme on disait tout à l'heure, les décors et tout ça, ça a marqué aussi plein de choses, quoi.
Ouais. Et petite info supplémentaire, après je vous laisse la parole. La même année, du coup, en 64, il y a The Monsters qui était diffusé sur CBS. Et c'est à la suite de cette commande de pilote que ABC s'est dit ah, ben, nous aussi, on veut notre part du gâteau avec une famille un petit peu chelou. Donc, du coup, on va commander, on va adapter du coup les dessins de Charles Adams. Voilà, voilà.
Je me demande aussi s'il n'y a pas eu de l'influence au niveau de Dark Shadows qui est arrivé un petit peu après.
Oui, c'est exactement le film que je pensais.
Ah, mais il y a eu une très longue série. Enfin, elle fait plus de 1000 épisodes, je crois, la série Dark Shadows. D'ailleurs, ils veulent faire un reboot, là. Enfin non, une suite. Ils veulent faire une suite sur CW. Bon, où tu te dis, mais une suite d'un truc qui a déjà plus de 1000 épisodes, vous allez faire un petit rappel de ce qui s'est passé.
1245 épisodes. Waouh. Ah oui.
Oh la vache. Non, mais je pense que ouais, dans cette esthétique-là, moi, il y a ça qui m'est venu.
Moi, c'est plus le film qui est sorti récemment de Tim Burton. Tu vois, quand tu m'as dit Dark Shadows, j'ai directement pensé à ça. Je savais pas du tout qu'il y avait une série qui avait été créée par rapport à cet univers.
Ouais, c'est pas un original. C'est pas un original de Tim Burton.
Et d'ailleurs, Tim Burton qui avait un peu, qui devait travailler sur les films, qui a été remplacé après par Harrison Ellfeld, mais qui devait travailler sur les films. Mais on voit tout à fait comment il aurait. Il aurait fait ça autrement, forcément, mais les couleurs, la palette et tout ça, de toute façon, ça correspondait très bien, un peu comme, d'une autre façon, un Beetlejuice pouvait marcher pour lui. C'est sûr que ce genre de matériel, pour lui, c'est un peu du pain béni. Après, les films sont très bien, donc c'est pas grave qu'il les ait pas faits, mais voilà, ça, c'est vrai que ça ressemble énormément à tout ce qu'on peut voir après cette époque-là.
Je sais que j'ai vu les films, pareil, étant... enfant, adolescente, enfin, moi j'aime beaucoup les films. Christopher Lloyd en Oncle Fétide est juste génial. T'as Christina Ricci en Mercredi, elle était tellement choupie. Mais surtout, la relation entre Morticia et Gomez, tous les petits noms qu'il lui donne et tout. Tout en espagnol. La danse du tango, bah, d'ailleurs, ça m'a fait rire qu'il danse dans le pilote. Oui. Ça m'a fait trop bien. Ça m'a rappelé des souvenirs de tango endiablé.
Bah pour le coup, il y a encore un casting énorme parce que pour moi, quand je pense à des couples extraordinaires de la fiction, l'un des premiers visages en rigolant, du côté sourire que je vois, c'est celui-là. Hein. C'est Gomez et Morticia. Et d'autant plus Raoul Julia et Angelica Huston.
Toi, Lalou, t'avais vu les films ?
Absolument, quand j'étais pareil que toi, quand j'étais jeune. Et j'en ai vraiment un super bon souvenir. Enfin, j'ai un vrai attachement, je pense, à la famille Adams comme beaucoup de gens. De notre génération.
J'avoue que mon chouchou, c'est le cousin machin, quoi. C'est mon chouchou avec le chapeau, moi, ça m'a toujours tué. Et puis, quand il fait et tout le monde comprend ce qu'il dit, tu fais, mais moi, j'ai pas compris.
Non, et puis, c'est quand même fou, parce que, bon, à la base, c'est quand même une série de 64, un film ensuite, et c'est resté quand même dans la culture populaire. Tout le monde connaît la chanson, sans forcément avoir vu la série, ou même le film, des fois, le cousin machin, tout le monde connaît. C'est quand même pour un univers aussi fou, pas à la mode, parce que bon, c'est pas particulièrement la mode, les gothiques ou les trucs un peu fous comme ça. Donc je suis toujours impressionnée que tout le monde connaisse.
C'est peut-être pour ça que c'est resté en fait, parce que c'était pas à la mode, c'est pas marqué.
C'est intemporel, absolument.
C'est ça.
Ouais, c'est vrai que quand tu vois en termes de marketing, il n'y a pas eu. Moi, j'ai pas vu 10 000 personnes avec des t-shirts à l'époque ou des trucs comme on a pu avoir sur Tim Burton ou d'autres, et pourtant effectivement c'est resté, c'est assez extraordinaire, c'est une telle réussite.
T'es en train de dire que t'as des souvenirs de moins 25, parce que là tu dis les gens avaient pas des t-shirts à l'époque, c'était bizarre.
J'ai des jeunes, dans les années 60, moi j'y étais. Non, je parlais plus à la sortie des films, c'est vrai, plus à la sortie des films, c'est-à-dire que t'as des goodies comme ça, tu dis, ouais, enfin, tu vois, avec personne. Je me demande si à Halloween, beaucoup d'enfants se sont mis en mercredi, tu vois, avec les nattes longues et tout ça. Ça peut être marrant comme costume.
Mais moi, j'ai fait mercredi. Ah, quand même, je m'étais fait des nattes et tout. Bah, en fait, c'est bête, hein, mais c'est quand j'avais les cheveux longs, c'était un costume pratique.
Ouais, ça ou Pocahontas, quoi.
Ah ouais, non, Pocahontas, la tenue est moins glope. Là, tu t'habilles en noir et blanc, ça va, c'est facile.
Oui, c'est plus simple, c'est plus simple.
Voilà, Roro, est-ce que tu as de nouvelles choses à ajouter sur la famille Adams, ou est-ce que tu vas aller les laisser rentrer dans leur petite maison.
Non, oui, j'ai un dernier truc. Ta-ta-ta-ta. Oui. Voilà, c'est tout pour moi.
merci Romain, c'était magique.
De rien.
Non, franchement, il faut que tu chantes plus souvent, Romain. Je pense que ça nous manque vraiment. Ton talent, Altar t'appelle. Hein.
Je peux chanter si tu le veux.
En fait, je reprends ce que j'ai dit. Je suis désolée, j'ai eu un moment d'absence.
Pardon.
Du coup, je propose qu'on passe à une autre série, qu'on passe à Greg et le magnifique... le dauphin.
Non, vous voulez pas qu'on reste sur Famille Adams?
Ouais, j'avais pas mis les paroles et je me dis que ça manque en fait.
Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, ce générique, pourtant, il, quand je l'ai réentendu en re-regardant la série Flipper le Dauphin, eh ben, ça m'a rappelé des choses, mais plus parce que ça m'a rappelé le fait de regarder ce genre de série ou des dessins animés quand on était jeune, tout ça. Mais à la relecture, on va en parler, ça pique un peu plus. Bref, donc Flipper le Dauphin, c'est quoi? C'est 3 saisons, 88 épisodes de 25 minutes, heureusement, ouf. Et en 66, ça arrive donc en 64, c'est sur la NBC, et en 66, c'est sur la deuxième chaîne de l'ORTF à l'époque, en France. Alors du coup, on suit l'histoire de... Alors c'est Porter X, c'est un père veuf, et ses deux petits-enfants, Buddy qui a 10 ans et Sandy qui a 15 ans. Alors Porter, il est ce qu'on appelle un park ranger. C'est comme Walker Texas Ranger, mais c'est California Kowalkie. Ouais, c'est Kowalkie Park Ranger. donc du coup, autour de cette famille, donc dans ce qu'ils appellent la réserve marine de Kowalkie, il y a donc Flipper le dauphin, alors qui est leur ce qu'ils appellent en anglais un animal de compagnie sauvage. Un peu bizarre. C'est un peu bizarre comme terme, mais voilà. Et donc Flipper, lui, carrément, il aide la famille, mais dans les enquêtes, il y a certaines phrases dans la série qui laissent entendre qu'ils peuvent parler ensemble. Les enfants arrivent à communiquer avec Flipper. On parlait tout à l'heure de cousin machin. Ben là, carrément, Flipper, il peut parler avec les enfants. c'est assez flippant parce que notamment on parlera du dernier épisode.
Oh, c'est pas mal comme
ouais, non, mais tu vas voir le dernier épisode que j'ai regardé, il y a quelques phrases, tu dis waouh, ils ont pris de la drogue, c'est pas possible.
Ah, ouais, non, vraiment.
C'est voilà. Comme avec la scie en fait.
C'est ça, voilà, la scie, Skippy et compagnie quoi. Et donc du coup, alors dans cette.
J'essaie d'imaginer une série avec le cousin machin et Flipper. Oh
oh, oui.
Ça, c'est la drogue.
Ils mettent une perruque à Flipper.
Tu rajoutes Odor, avec Odor. Et là, en termes de discussion, là, t'es au top du top. Du coup, dans la série, il y a des attaques de requins, il y a des arrêts de criminels, il y a de la tempête, il y a du vol de bateau, il y a tout y passe. Il y a un peu aussi ce côté un peu détective de toute cette compagnie de rangers avec le père, les enfants et le dauphin, avec plein d'autres personnages autour. Il y a même une histoire, alors je ne l'ai pas vu hein, l'épisode, il ne faut pas pousser, mais j'ai vu dans les résumés, il y a même il y a un épisode où il a failli mourir après une explosion, pendant tout l'épisode et tout, il se fait soigner, on croit qu'il va mourir, tout ça, mais en fait il ne meurt pas. C'est pour
Flipper?
De faux, donc tout va bien. Ouais, Flipper, ouais. Après une explosion d'un bateau qui était un bateau de méchants. Voilà, c'est le résumé que j'ai.
Ils l'ont fait exprès d'exploser leur bateau pour faillir tuer Flipper.
Ouais, t'imagines, wow. T'imagines, c'est fou hein, quand même. Et il y a bon voilà, donc au niveau casting, c'est une vraie animalerie parce qu'il y a il y a Flipper, il y a un pélican qui s'appelle Pete, voilà. Il y a un retriever qui s'appelle Spray. Il y a même des épisodes apparemment où il y a un bébé éléphant, un phoque, un alligator et même Flipper. C'est un chaud, j'allais dire chaud lapin, un chaud dauphin. Il a quand même une petite amie qui s'appelle Lorelai au bout d'un moment, quand même. Donc, c'est du lourd.
Non, mais what? Oh, la drogue.
C'est la drogue. Hein. Mais à l'époque, elle était beaucoup moins chère, la drogue. C'est ce qu'il faut se dire. Elle était beaucoup plus facile, je ne sais pas.
Enfin, avant l'inflation.
Ouais, c'est ça. Voilà, alors les séries animalières, vous en avez cité. On a Lassie, on a eu Daktari en 66, il y a eu Skippy le kangourou. Enfin, c'est vraiment une époque, les années 60, c'est très. Voilà, c'est un peu les docs animaliers qui deviennent un peu des séries télé. Voilà, alors les acteurs qui sont dans la série sont des acteurs qui n'ont pas beaucoup joué avant ni après. Notamment Tommy Norden qui joue un des enfants, il s'arrête à l'âge de 23 ans après. Son frère dans la série, en fait, Luc Alpin, qui avait joué dans le film de 63. Lui, il reste un peu dans le milieu, mais il va devenir coordinateur marin pour le cinéma et la télé. Donc c'est une niche, hein, ça c'est sûr. Voilà, il y a des acteurs par contre qui ont été un peu guest stars, Burt Reynolds, Martin Sheen, Jessica Walters, voilà, il y a des petits noms comme ça qui sortent. Voilà, et une petite question, tiens, pour finir, le son de Flipper, à votre avis, il est fait par quoi? Par, je sais pas, un dauphin, un hélicoptère, une voiture, un oiseau, tout ça?
C'est fait par un oiseau.
Bravo, bon, il l'a dit parce que je l'ai un peu cité peut-être, mais bravo Romain, c'était par un oiseau en fait. C'est par un Dacelo Martin Chasseur. C'est la petite info, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont travaillé ce son-là. Ce n'est pas du tout le bruit du dauphin. Voilà. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre comme bêtise? Ben non, c'est à peu près tout. Ah si, alors on va finir sur un truc un peu horrible. Mais nos amis les dauphins, ce qui prouve que c'est des animaux très intelligents, peuvent consciemment mettre fin à leur jour. Un peu comme les humains.
Et en fait, il s'avère que... Merci pour ce fun fact, Greg.
Voilà, merci, au revoir. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je vous avais dit qu'il fallait qu'on reste sur la famille Adams. Vous m'avez
C'était
pas écouté.
C'était le moment Animal Planet.
Oui, c'est ça. C'est le moment vous est offert par Géo. voilà. Et du coup, il y a une personne qui a travaillé sur le truc qui a expliqué que en fait, les dauphins qui étaient utilisés étaient donc utilisés toute l'année. Ça a duré 3 ans et tout ça. Oh, et apparemment, il y a un...
Attends, mais ce sont de vrais dauphins?
Ben oui.
Oh non, Greg, non.
Non, dans certaines scènes quand même, tu te dis, ce sont des mecs dans un costume, ils peuvent pas bouger comme ça, sérieux.
Ben il y a des moments. Alors c'est que des vrais dauphins. Il y a eu plusieurs dauphins qui ont été utilisés et même il y a même des pour vous dire pour une petite anecdote. C'est des femelles qui sont utilisées parce que par rapport à la taille et par rapport à la texture de la peau, c'était plus facile de tourner avec des femelles. Mais la seule chose, comme c'était des dauphins domestiqués, la seule chose qui était jouée par un... Il y a eu un dauphin mâle qui s'appelait Clown. Alors, on ne fait pas de blague, mais en fait, il était utilisé uniquement pour les scènes pour faire des marches arrière. Alors, j'ai lu ça sur un site, parce que sur les scènes, il y a des scènes où il y a des marches arrière et les 5 femelles qui ont été utilisées ne pouvaient pas le faire, donc ils avaient utilisé un personnage supplémentaire. Voilà. Et donc, pour finir sur le truc glauque, il y a quand même un dauphin qui a mis fin à ses jours après la fin de la série. C'est l'un de ses coachs qui l'a raconté après la série, qui a expliqué que c'était un peu un nervous breakdown du dauphin. Voilà.
Oh.
Sympa, hein ?
Quelle note joyeuse pour conclure. T'as vu, hein ?
Et du coup, t'en as pensé quoi ?
Ah merde, il faut enchaîner, merde. Vous n'avez pas commencé, vous êtes sûr? Non, mais en fait, pour avoir vu ça, et après, quand j'ai vu justement les séries des Lassie, des Dactari, des tout ça, machin, en fait, moi, ça me rappelle le souvenir. J'ai l'impression de réouvrir, quand j'étais jeune, il y avait des tablettes de chocolat, on les ouvrait, et dessus, il y a des petits animaux dessus. Et ben, ça m'a appris des choses, parce que sur ces tablettes, et ben, il y avait écrit les histoires des animaux. Ben, ces séries-là, ça ne sert ni plus ni moins à voir des dauphins. Il faut enlever le son, il ne faut pas écouter l'histoire. Faut accélérer dans les moments d'action, enfin d'action.
C'est un documentaire Arte, quoi.
Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait reprendre de Flipper et en faire un documentaire. Reprendre les images et faire un documentaire. Parce que sinon, à part ça.
Ce qui serait beaucoup mieux, tu prends les images et tu fais du doublage par-dessus.
Ah ouais. C'est ça. Non, parce que le rythme, ça dure que 23 minutes et pourtant le rythme est
lent.
C'est lent. Et même, il y a je sais pas si vous avez vu le pilote, quand il y a quand même.
La scène de combat.
Ah ouais, mais l'histoire du pilote, je raconte vite fait, excusez, et après je vous laisse la parole parce que là je monopolise. La première histoire, c'est quand même quelqu'un qui se fait attaquer par un
requin,
qui appelle depuis son bateau. Et en fait, donc le park rangers qu'on a, Brian Kelly dans l'histoire, dit avec les gens qui sont autour de lui, on va lui amener du sang. Mais pour amener le sang, il faut qu'ils attendent l'hélicoptère, qu'ils amènent le sang. Enfin, là déjà, tu dis, ok, ils m'ont perdu.
Sauf que, oh là là, le sang, il tombe au fond de la mer. Et c'est Flipper qui va aller chercher la boîte.
Va chercher la boîte. Non, une
c'est
boîte
ça, vas-y Flipper, donne tout. Et il y a quand même un moment mythique qui est quand même, tout est tourné, la plupart sont tournés quand même sur des faux fonds, quand même, faut le dire.
Enfin, ça se voit de ouf.
Ouais, c'est ça. Il y a un moment mythique où tu as donc Brian Kelly avec je sais plus qui à côté de lui et la personne lui dit « On peut aller plus vite ?» Et lui, il dit « On est au max !» C'est un moment de solitude, ils doivent être à 10 km/h à tout péter. Et là, tu dis « Ah ouais, d'accord, ça va être le niveau de tout le truc. » Enfin voilà, donc du coup...
Dans ce pilote, Flipper fait un tour d'hélicoptère.
Ah oui,
oui, c'est vrai, il est nettoyé.
J'ai fait mes what the fuck.
C'est le cirque Pinder, en fait. C'est le cirque Pinder, quoi. C'est... Mais voilà, donc du coup, c'est faut regarder une saison au zoo, quoi, au lieu de regarder ça maintenant, quoi. C'est un peu la version une saison au zoo de l'époque. On voit des animaux, on voit des humains, c'est... Voilà, quoi. Heureusement que ça ne dure que 25 minutes, parce qu'on parlera de la version avec Jessica Alba qui dure 42 minutes, et puis je peux vous dire que j'ai souffert, hein. J'ai passé en vitesse accélérée, hein. Et oui, 98. Série 90.
Oh mon dieu.
Et ça, c'était 45 minutes. Et...
Tu me parles d'un truc dont je n'ai aucune idée. Je pense que Lalou non plus et Roro encore.
Ah, mais ouais. Non, mais enfin. C'est...
Pourquoi? Juste pourquoi?
Vous voulez un autre fact? Vas-y, il y a quand même aussi un film en 93 avec Elijah Wood. Si vous voulez voir Elijah Wood très jeune, regardez Flipper. Enfin, moi, j'ai pas regardé en entier, par contre. Là, j'ai regardé que 2 secondes parce qu'il faut pas pousser non plus.
faut pas déconner. Beaucoup.
Là, je faisais overdose. Hein, là, c'était voilà. Mais il y a aussi un film avec. Voilà.
Et parle-nous-en, parce que je pense que le pilote, on a dit à peu près tout. C'est super long.
La série, c'est assez drôle parce que c'est vraiment. Ils ont plus ou moins arrêté quand les enfants étaient un peu trop vieux, parce qu'il y en a un qui a 15 ans, donc il va avoir 18 ans. Et en fait, ils ont vraiment. Quand tu lis des trucs dessus, en fait, tu te rends compte que ça a duré 3 ans parce qu'au bout d'un moment, les gamins, ils avaient 18, 20 ans et que c'était dur après de refaire une série derrière ça sur les enfants. Parce qu'il y en a un qui a été 18 ans et la fin de la série, c'est un peu celui qui a 18 ans qui veut devenir. Il veut devenir quoi? Je sais plus. Il veut travailler dans le même milieu que son père, en fait. Il veut être plus ou moins park ranger. Et d'ailleurs, arrive une lettre dans le dernier épisode, en gros, pour savoir s'il va être pris ou pas. Gros suspense, tu vois. Énorme, je vous le dis pas, parce que c'est vraiment trop énorme. Et en fait, au bout d'un moment, il dit, les deux frères se disent, ouais, mais si toi tu pars, moi je peux pas partir, parce que le deuxième frère veut aussi partir pour ses études, parce qu'il faut rester avec Flipper, tout ça, machin. Et en fait, il se passe une scène assez, et là on parle de drogue, il dit, j'ai parlé ce matin avec Flipper, il m'a autorisé à partir. Parce qu'en fait, tout le long de l'épisode, c'est Flipper qui ne veut plus leur parler, c'est Flipper qui s'en va en nageant avec sa nageoire, machin, tout ça, et tout. Les enfants essayent de lui parler, ils ne veulent pas. Et à la fin, Flipper accepte de leur parler, et donc ils acceptent de partir. Et la fin de la série, c'est ça. C'est les deux enfants qui partent.
Et ben
voilà. Et donc, le contenu intérieur, ben, c'est que des histoires un peu comme ça, où c'est carton, pâte, très très long, voilà. Et il n'y a aucune autre intrigue à côté non plus. Ça ne parle pas énormément, le peu que j'ai vu, ça ne parle pas non plus énormément écologie pure. Enfin, ça parle que, ça parle nature, quoi, tu vois, ça parle de jolies choses.
Ça parle de vivre dehors.
Ouais, c'est ça, mais c'est pas foufou, quoi.
Ça parle de jeter des boîtes dans l'eau et Flipper, il les ramène. Donc, ça parle un peu des fourmis, on nettoie les mers, quand même.
En balançant du sang à l'eau.
Ouais, c'est ça.
Mais dans une boîte.
Ah oui, en plastique.
Non, Greg, parle-nous plutôt des adaptations qu'il y a eu ensuite, parce que là, Jessica Alba, j'en peux plus, là, je veux savoir.
Jessica Alba. Eh ben, la version 98, en fait, c'est un peu pareil, s'il y a un peu plus d'argent, on va dire, un peu plus de... 95. Un peu plus d'argent, c'est... Merci. C'est un peu dans le même délire. C'est toujours des enfants. Jessica Alba, je crois qu'elle a 14 ans, un truc comme ça à ce moment-là. Et c'est un peu le même délire. C'est deux enfants, c'est pareil, il y a un père. Il y a tout un truc océanographique. Alors, c'est une plus grosse truc. On est plus proche de Baywatch et tout ça. Mais en termes de vitesse, en termes d'action et en termes de jeu, même général, c'est la même chose. C'est vraiment, vraiment la même chose pour le coup. C'est vraiment à peu près les mêmes intrigues, sauf qu'au lieu de parler...
Même chez le dauphin.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, j'en ai vu ça à l'époque. Je me rappelle en avoir vu passer parce que ça passait beaucoup sur TF1, je crois, quelque chose comme ça. Pour avoir vu ça, j'étais peut-être un peu trop âgé. Parce que moi, en 95, je commençais à avoir 13 ans. Donc, regarder Flipper le Dauphin, ça devenait un peu compliqué, quoi. Mais je regardais ça d'un œil et ça me paraissait pareil, quoi. C'était des belles images, c'était des beaux fonds, des trucs, des beaux dauphins, des trucs comme ça, mais sinon ça n'avait
pas d'intérêt. Des jolis dauphins.
Des jolis dauphins, quand t'aimes les dauphins.
Mais alors, du coup, Greg, à ton avis, ça s'adressait à quel public cette série?
Ben alors, en France en tout cas, aux États-Unis aussi pas mal, ouais. Et ben, clairement c'était vraiment pour les tout petits. C'était vraiment, pas les tout petits quand même, parce qu'il y a quand même des histoires de sang et tout ça. Plutôt, non, je dirais non, au contraire, plutôt pour les 10 ans, les pré-ados, tu vois, ce genre de trucs. Parce que nous, en France, c'est vrai que les cases sur lesquelles ça passait, c'était vraiment, c'était pas vraiment derrière les trucs pour les tout petits. Mais voilà, c'était pour ceux qui voulaient un peu être en mode je trouve tout, un peu les castors juniors, tu vois, un peu se découvrir la nature et tout ça, quoi. C'est parce qu'il y avait des notions un tout petit peu, des notions de nature, de tout ça, quoi. Un peu comme le Skippy, comme tous ces trucs-là, si, Skippy et compagnie. C'est-à-dire que tu avais un peu cette aventure et en même temps, tu avais la nature et tout ça, quoi. Donc, non, je dirais, ouais, pré-ado, tu vois, 10, allez, 10, 13, quoi. Tu vois, pas beaucoup plus, hein, parce qu'après. Ça devient compliqué parce qu'en termes de jeu, en termes de même d'âge des personnages, tu vois, et en termes d'action, parce qu'il y a beaucoup d'action, surtout vers la fin, où c'est même plus les deux gamins principaux, c'est des cousins et des personnages beaucoup plus jeunes. Donc on revient à un truc où les gamins ont 10 ans. Donc même jusqu'au bout, ils ont rajeuni pour, ouais, pour avoir des intrigues autour de gamins de 10 ans, quoi. Et vous alors ?
Oh bah non. Franchement, c'était long, quoi. C'est
la souffrance.
C'est ça.
C'était vraiment une suite de mèmes ambulants. Tu vois, genre, c'est vraiment oui, la scène où t'as le père et le gamin, tu sais, sur le bateau, avec ce fond vert de l'angoisse. Enfin, genre, c'est vraiment...
Alors, je pense pas que ce soit un fond vert. Je pense plus que c'était de la transparence.
Oui, oui.
Non, genre, mais... en mode, t'as le décor qui défile derrière, quoi.
Ouais, ouais, à l'ancienne.
Et ce moment où Flipper doit sauver tout en allant chercher une boîte qui est plus grosse que celle de d'habitude, et que Flipper n'arrive pas à aller chercher la boîte, et que le père dit à son fils, redis-lui, il n'a pas compris. on est quand même dans un moment, genre, mais complètement... Enfin, c'est what the fuck sur what the fuck. C'est drôle. C'est quand même... Bah, c'est fou comme on peut se faire chier en 25 minutes, quoi.
Ah, grave.
Exactement.
Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est la fin. Quand, au final, tout finit bien, hein, quand même, dans le pilote. Mais...
Spoiler.
Spoiler alerte. Ah oui, alors par contre, oui, on va spoiler des trucs qui ont donc maintenant, quoi...
Moins 25 ans.
50 ans, ouais.
Moins 25 ans, voilà.
Moins 25 ans plus votre âge. Vous faites le calcul. Non, mais j'aime bien, c'est qu'à la fin, t'as Flipper qui... Enfin, le gamin dit que Flipper lui a dit « Bon, il est OK pour nous aider, mais par contre, il prendra plus jamais l'hélicoptère.
» En fait, c'est Barracuda. C'est Barracuda, en fait.
C'est, ouais,
c'est agence touriste, en fait, le mec.
Mais à lui tout seul.
Ouais, c'est ça, putain. C'est génial.
C'est beau, quoi. Franchement, c'est... Faudrait faire, ouais, je dis, hein, ouais, un faux doublage, ou même, limite, on pourrait redoubler, mais avec des voix, comme dans les dessins animés de quand on était petit, les voix ultra surjouées, là. Je suis le méchant.
Oh mon Dieu, le méchant.
Ah mais c'est clair que je me demande comment, par exemple, vous savez, le grand détournement et genre de gens, pourquoi ils n'ont pas pris des images de Flipper, quoi. Parce que c'est tellement fait pour être détourné, effectivement, en mode blague et tout ça. Je comprends pas qu'il n'y ait pas eu plus de Flipper et de Lassie et compagnie dans ce genre de truc, quoi. C'est extraordinaire, parce que tu vois, Lalou, tu parlais de même, et ben c'est vrai que c'est une collection, quoi. C'est vraiment c'est une pépite, quoi, en termes de, pour ça, en termes d'image, en termes de fringues, en termes de gueule, en termes de jeu. Je veux dire, quand il y a un épisode, quand je vous disais là, pour les gamins vers la fin là, en fait ils sont dans un bateau, mais le bateau commence à couler et tout, ils commencent à pleurer, mais le gamin, c'est, il pleure toutes les larmes de son corps. C'est, on dirait un manga, tu vois, avec les il y a tellement de larmes sur son corps, il y a plus de larmes que de dos autour de lui, quoi, tellement c'est énorme, quoi. Et du coup tu dis, mais ça, c'est de la pépite, quoi. Faudrait presque que les gamins le regardent pour en faire des mèmes et pour voilà.
Chers auditeurs, si vous êtes créatifs et que vous vous ennuyez, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Si vous vous ennuyez grandement,
Flipper n'attend que vous. Mais alors, par contre, pas d'hélicoptère, hein, on a dit, il aime pas ça. Vraiment,
non,
pas.
Non, non.
Non, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le fabuleux destin de Flipper.
Ça aurait été mieux de le laisser dans l'océan.
Ouais, c'est clair. Livre d'enfant alone.
C'est ça.
Ah bah voilà, bah merci Greg d'avoir subi tout ça pour nous et pour nos auditeurs. Il t'en remercie grandement.
Bah, j'espère bien.
Et je pense qu'il est l'heure de rentrer à notre maison. De repartir sur quelque chose qu'on connaît un peu mieux et qu'on digère peut-être mieux, les bons petits plats de Samantha.
Oh oui.
Bilibilip. Alors là.
Alors, ma sorcière bien-aimée, ou Bewitched en anglais. Donc, c'est quand même 254 épisodes de 25 minutes. Hein. Ça fait à peu près 84 heures de série. Je crois qu'en comparaison, Game of Thrones est autour de 56. Voilà, juste pour mettre un petit contexte. Voilà. Donc, si jamais vous êtes, je ne sais pas, au chômage, en vacances, bref, si vous avez beaucoup de temps, allez-y, c'est vraiment... super. Ça a été diffusé pour la première fois le 17 septembre 64 sur ABC. Ça a été créé par Sol Sachs et on retrouve qui dedans ? En fait, ma sorcière bien-aimée, bon, le pitch est bien connu, mais je le refais rapidement. Samantha, c'est une sorcière qui a une centaine d'années, qui a de grands pouvoirs, qui vient d'une grande famille de sorcières, mais qui tombe amoureux de Jean-Pierre, voilà. Jean-Pierre Stevens, un pauvre mortel qui joue, qui travaille dans une agence de pub, hein. C'est un peu un madman, mais un peu un madman de la loose, hein. pas se mentir. Et le pauvre Jean-Pierre, il ne sait pas que sa femme est une sorcière, qui bouge son petit nez pour faire des tours de magie. Résultat des comptes, le jour de sa nuit de noces, Jean-Pierre, il a très très la dalle, et Samantha lui révèle, parce qu'elle est maligne, juste avant, que c'est une sorcière. Et Jean-Pierre, il fait « Ok, je te baise, mais par contre, plus jamais de magie !» Voilà, donc on est déjà sur une série, sur un mariage sain, on va pas se mentir, hein, voilà, on est sur des bases de amour pour toujours.
Un couple stable.
En tout cas, on est quand même sur au moins 84 heures d'amour toujours. Donc on se retrouve avec une petite famille, tout va bien entre eux, tout se passe bien. Elle fait quand même un petit peu de magie pour éviter de faire la vaisselle parce que même être une esclave, c'est pas si drôle. Le seul problème de leur vie à Samantha et Jean-Pierre, c'est la terrible mère de Samantha qui s'appelle Andorra. Et cette chère Andorra, en fait, c'est finalement un peu la seule sensée de toute cette série, puisqu'elle refuse que Samantha devienne une espèce d'esclave à Jean-Pierre et fasse sa vaisselle et porte ses enfants pour tout le reste de sa vie en ne touchant plus jamais à la magie et donc reniant qui elle est. Donc finalement, la série, comment ça va se passer ? C'est finalement une série de personnages attachants, dont beaucoup Andorra, qui vont faire tout plus ou moins ce qui est possible, notamment surtout la famille de Samantha, pour éviter que Jean-Pierre et Samantha restent ensemble. Et donc Samantha, elle va surtout passer derrière sa mère, qui va ensorceler Jean-Pierre pour faire tout un tas de trucs. Hein. Elle va lui parler espagnol, mais plus anglais. Elle va mais en égocentrique, en avare. Bref, il va en subir des vertes et des pas mûres. Et derrière tout ça, Samantha, et ben en fait, elle est obligée d'user de ses pouvoirs, bah, tout simplement, essayer de sauver Jean-Pierre. Donc ça fait quand même beaucoup la même chose, hein. Même si c'est très attachant, c'est toujours un peu la même histoire. Il y a 6 saisons, ils finissent par avoir, attention, super spoiler, 2 enfants. Voilà. Et entre deux, en fait, ben, on a changé de Jean-Pierre. et ce qui est fou, c'est que Jean-Pierre a été remplacé par un autre Jean-Pierre, c'est-à-dire que le premier s'appelait Dick York et le deuxième s'appelait Dick Sargent. Voilà, et ils se ressemblaient de ouf, genre pas de problème. Ils se ressemblaient énormément, résultat du compte, ça n'a pas trop empêché la série de continuer à fonctionner. La série, en fait, à partir de la saison 4, a commencé à baisser dans ses audiences, notamment parce que. Il me semble Dick York était de plus en plus et s'était blessé au dos et donc du coup apparaissait de moins en moins dans la série. Il a été remplacé en urgence par l'autre Dick. J'adore dire cette phrase. Il a été remplacé en urgence, mais ça n'a pas empêché les audiences de continuer à baisser avant d'être annulées. Comment ça finit ? Parce que quand même ça a une fin, hein, n'est-ce pas ? Simplement avec comme d'habitude, cette bonne vieille mère qui décide de jouer un tour en offrant un cadeau à Jean-Pierre qui l'oblige à le rendre, à l'empêcher de mentir. Résultat des comptes, ils se mettent dans des situations pas possibles, mais ça finit sur Jean-Pierre qui dit à sa mère à quel point elle aime. Et tout finit bien.
Oh.
La série aurait pu être continuée encore pour 2 saisons, mais celle qui interprète Samantha, c'est la grande Elisabeth Montgomery, a refusé de continuer parce qu'elle avait envie de se plonger dans d'autres projets. La suite, maintenant, j'ai bientôt terminé. Il y a eu en 1977, donc 10 ans après la première série, en gros, enfin un petit peu plus de 10 ans, avec qui s'appelle Tabata, donc par Lisa Hartman, alors que l'original, donc la fille de Jean-Pierre et de Samantha, est jouée par Erin Murphy. C'est tout simplement voilà, l'histoire de leur fille. Ça n'a duré qu'une seule saison, ça n'a pas marché. Et on comprend pourquoi quand on regarde, parce que c'est très très chiant, et puis en fait ça n'a pas la même saveur. Et évidemment, je ne pouvais pas m'arrêter sans parler évidemment de ce magnifique film qui est Ma sorcière bien-aimée, film de Nora Ephron avec Nicole Kidman et Will Ferrell, n'est-ce pas ?
Là, déjà.
Voilà, et Shirley MacLaine qui joue le rôle. J'imagine que vous l'avez vu.
Nope.
J'imagine que vous avez. Ah, vous avez pas vu. Bon, voilà, t'as gagné 2 heures de
non,
ta vie. En tout cas, les critiques hallucinées pour la presse parlent pour elles-mêmes. Simplement, pour terminer, ce qui est beau, c'est que le réalisateur, le producteur de la sitcom, c'est William Achner. Et en fait, il était marié à Elisabeth Montgomery. Et le couple divorcera juste un an après la fin de la série. Donc voilà, c'était un couple de télé, mais pas un couple. La vie.
Tu vois, toi aussi, tu finis sur un truc, voilà, c'est horrible.
T'as vu ? En fait, à la fin, c'est nul.
Ah bah, je vais dire, moi, j'ai revu le pilote, j'ai vu beaucoup d'épisodes quand j'étais au collège, parce que quand je rentrais le mercredi midi, ça passait sur M6.
Comme absolument.
Monde, je pense, voilà, j'ai vu ça.
Ça a été passé et repassé sur M6. C'est encore diffusé de souvenirs sur Gulli.
J'ai pas vu tous les épisodes, mais j'en ai vu une bonne tripotée quand même. Hein. Tabata, je l'ai vu quand même à pas mal d'âges différents. Je l'ai vu de bébé à petite fille, genre 4 ans, quoi. Donc, je l'ai vu faire son nez avec son doigt. Voilà. Mais non, moi, j'aimais bien La Sorcière Bien-Aimée. Je trouvais ça rigolo quand j'étais plus jeune. Et puis là, en regardant le pilote, j'ai retrouvé les sensations que j'avais étant plus jeune. C'est vraiment mignon. J'aime beaucoup Jean-Pierre, même si c'est un macho, même s'il est idiot, il fait toutes les bêtises du monde. Mais je le trouve tellement drôle. Je le trouve très attachant. Samantha, j'aime bien le côté de la femme qui veut s'émanciper. Elle est docile auprès de son mari. Mais voilà, elle veut pas faire la vaisselle, elle veut pas faire les trucs chiants. Elle fait attends, je suis une sorcière. Je peux me débrouiller quand même. En un claquement de doigts, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Mais bon, quand même, quand sa mère lui dit non, mais il faudrait que tu fasses plus de choses pour toi. Non, mais j'aime mon mari, je suis sage. Donc elle joue totalement sur les deux tableaux, mais comme ça, elle fait ce qu'elle veut. J'aime bien l'idée. Mais je trouve que le pilote est très bien dans le sens où il présente excessivement bien le contexte, avec Jean-Pierre qui est un humain et qui veut qu'il n'y ait pas de magie dans sa vie, Samantha qui, elle aimerait bien faire de la magie de temps en temps, et Endora qui veut tout péter.
Toujours tout péter. Quand même, effectivement, la chose que j'ai pas relevée, c'est que quand on regarde, je pense, les pilotes, et je pense que ça, on va pouvoir en parler, c'est le sexisme de cette série.
Ah, la violence.
Mon Dieu, mais c'en est un point où on sait que c'est une vieille série, on sait que on le voit un peu rétrograde, mais en fait, c'est super cringy. Même, on a un moment où t'as Samantha qui va commencer à faire la vaisselle, et elle se dit « Oh, je vais faire de la magie pour faire la vaisselle, et du coup, ce sera prêt en 2 secondes. » Et là, t'as Jean-Pierre qui dit « Ah non, pas de magie ! Utilise tes mains !» bon esclave ! Enfin, c'est quand même hyper problématique comme vision de la femme. Je sais qu'on est en 64, mais quand on voit, par exemple, Amy Adams, et ben justement, ça met en parallèle, et qu'on met en parallèle les deux séries, on se dit que c'était quand même deux séries de mentalité.
Ah, grave.
De ça, deux ans, hein. Bah, y a une phrase moi que j'ai remarqué dans le pilote, justement, c'est ils parlent justement, ils veulent, on va dire, l'ex de Jean-Pierre revient voir Jean-Pierre, elle revient de vacances, tout ça, elle veut absolument inviter du coup le nouveau couple, et t'as quand même Jean-Pierre qui dit un peu ouais, elle est un peu sauvageonne, je sais pas si elle est encore prête pour être montrée en société. Et là tu fais ah ouais,
c'est exactement elle est pas encore matée, quoi.
Ouais, c'est ça. Et là tu vois, mais il y a plein de phrases après effectivement, Comme tu disais, tu peux le prendre d'un côté comme de l'autre, parce qu'effectivement, de l'autre côté, elle continue à faire de la magie, tout ça. Il y a un équilibre qui essaie de se trouver, mais à regarder maintenant, c'est au secours, quoi.
Ah là là.
Il y a des trucs, putain, tu vas devoir faire comme les autres femmes, à manger, le ménage et tout ça. Il n'arrête pas de ça. Le premier épisode est quand même un beau condensé. Hein. C'est un beau dictionnaire au niveau du machisme et de
un bon ramassis de merde.
Ouais. C'est ça.
D'un homme qui ne veut pas se sentir trop écrasé par sa femme, qui a tous ses pouvoirs magiques et qui pourrait faire tant de choses, mais non. Il faut qu'elle fasse le balai. Il faut qu'elle passe le balai à la main.
Il faut qu'il reste le mal alpha, tu comprends.
Alors que pour le coup, lui...
J'avais quand même juste oublié le fun fact qui est un peu connu, mais qui est toujours sympa à rappeler. C'est quand même qu'à la base, le rôle de Samantha, il avait été prévu pour Tammy Grimes, donc une autre actrice. Mais finalement, c'est Elizabeth Montgomery, puisque Tammy Grimes, n'avait apparemment, selon la légende en tout cas, ne savait pas bouger son nez aussi bien qu'Elizabeth Montgomery.
Ouais, mais en même temps, c'est indispensable pour la série.
C'est indispensable.
C'est le gimmick récurrent, quoi.
Regarde, après Tabata, elle a l'air nulle avec son doigt. Enfin, je veux dire, voilà. Ça marche beaucoup moins bien. Romain, toi, t'en as pensé quoi de ce pilote ?
Exactement de ce qu'on a dit. Moi, ma sorcière bien-aimée, ouais, je le voyais sur M6 étant enfant. Et ouais, je me rappelle, tu vois, d'avoir pas mal rigolé en regardant la série. Mais là, d'avoir vu le pilote, et on l'a dit, moi j'avais envie de jeter mon ordinateur. J'étais en mode, non mais sérieusement, les gars, enfin, je sais qu'on est en 1964, mais bon. Enfin, tu sais, c'est toujours le truc que tu dis en mode, bon, c'était avant, mais t'es pas trop sûr que ça existait. Mais là, quand t'es plongé en plein dedans, t'es en mode, non, mais ça a vraiment existé. C'est juste impensable.
C'est ça.
De montrer à la télévision, à une heure de grande écoute, et soit une bonne petite femme reste à la maison. Enfin, oh, mais j'étais.
Et quand tu vois des séries comme Mad Men, qui se passent plus ou moins à la même époque de souvenirs, et où tu vois le sexisme terrible dans cette série, tu dis, ah, c'est pas pareil, il parle d'une série, on parle aujourd'hui d'une série de 2017 qui parle d'une série de 1964, mais le voir en réel, effectivement, genre d'une ouais. série de, qui parle de son époque à son époque, c'est comme toute autre chose.
Genre, regardez le manifeste de ce que vous devez être. C'est voilà. vraiment ça, moi, qui m'a dérangé. Après, en soi, en termes de comédie, c'est bien fait, entre guillemets. Surtout la scène mais quand la mère de Samantha, justement, elle empêche Jean-Pierre de rentrer dans la chambre pour la lune de pour consommer la lune de miel.
Oui.
Genre, à chaque fois, il se retrouve dans le lobby de l'hôtel avec le gars, il comprend rien du tout. Enfin, voilà, je pense que la série, et tout au long de la série, ce qui a fait aussi le succès, c'est d'avoir eu ces petites scènes drôles qui ont parsemé la série, qui ont contribué à son succès, et qui quand on la regarde maintenant, même s'il y a le sexisme qui prend le dessus, ben ça en reste quand même drôle.
Puis ouais, puis le je trouve que Elizabeth Montgomery, mais aussi Dick York, après Dick Sargent aussi pour la suite, parce que ils se ressemblent tellement, ils jouent à peu près de la même façon et tout ça, mais ils marchent bien quoi. On parlait d'alchimie pour la famille Adams, là moi je trouve que ça marche bien, ils marchent bien aussi ensemble quoi. Je
ah oui, ça marche.
C'est le couple, tu vois, tu plonges dedans et tout ça, elle avec ses petites mimiques, ses petits sourires, tout ça, un jeu très particulier des années 60 aussi, où les regards caméra, les machins, les grands silences et tout, mais ça fonctionne pour eux, enfin là pour le coup ça fonctionne bien. Puis Andorra, la tête, ils l'ont surmaquillée, enfin ça me fait penser un peu à quand, avec Tony Danza,
Madame
est servie avec le rôle de la mère aussi, qui est, on dirait la même, les cheveux un peu comme ça, le surmaquillage, le personnage too much et tout. Et là, tu fais, ah ouais, la grand-mère, elle a 30 ans, elle évoluera, elle n'a pas évolué, quoi. Et encore aujourd'hui, il y a des séries où c'est encore le cas, quoi. Mais là, le rôle de cette belle-mère, cette vision aussi, là, c'est genre, mais même des deux côtés, parce que quand on regarde, il y a quelques épisodes, surtout vers la fin, il y a des épisodes avec moi, j'ai vu un épisode un peu au pif sur une histoire sur Tabata, où il y a un deuxième enfant le deuxième enfant va arriver, et du coup, il y a la mère de Jean-Pierre qui arrive. Mais en fait, ça a beau pas être une sorcière, c'est la même. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, elle dit, ah, elle est là, l'autre. Ah, il faut que c'est moi qui dois m'occuper de Tabata. C'est moi qui vais m'en occuper. Ah, nanana. Ah, elle travaille pas aussi. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Donc, en fait, les deux côtés, c'est la vision aussi de la belle-mère et de cette famille sacrée là. Elle est ancrée, elle est plongée dans le marbre et elle bouge pas quoi. C'est violent comme sculpture de l'époque quoi.
La belle-mère maléfique, ouais.
Ouais. Ce truc là. Mais qui marche avec Jean-Pierre quand elle l'emmerde sur plein de sorts qu'elle lui lance et tout ça quoi, bah, qui fait le sel de la série aussi, parce que sinon c'est pas drôle, il y a pas d'intrigue, il y a rien, voilà. Mais sur le long terme, c'est un peu pareil. Moi ça me fait un peu pareil que la famille Adams, c'est que moi pour le coup c'est une série que j'ai regardé là pour ça, mais je regardais un peu à l'époque quand ça passait tant de temps et encore, mais là aujourd'hui à part pour le podcast, je pourrais pas en regarder d'autres, c'est pas, tu vois, c'est pas possible, enfin pour le coup moi ça c'est beaucoup trop cringy effectivement pour que ça passe quoi. Même si même malgré tout ce que je viens de dire sur les personnages qui sont cool et qui marchent bien quoi.
Il y a un personnage aussi qu'on n'a pas abordé, c'est le meilleur ami de Jean-Pierre, enfin son boss. Ils sont un peu amis parce qu'il vient souvent déjeuner avec sa femme et tout. Mais lui, il est pire que Jean-Pierre quand même. Au niveau sexiste, misogyne.
Alfred Tate.
Alfred, il est atroce parce qu'en plus, il juge comment il traite Samantha. En limite, il lui laisse trop de liberté.
Non, mais c'est ça. Et puis en plus, il vole toutes les idées de Jean-Pierre. En fait, il s'est fait... C'était un vrai sexiste, tu vois, genre, mais jusqu'au bout, il piquait même les idées de son employé, de Santa, de tout le monde, genre lui. Voilà, on était au top du niveau, quoi.
Un bon gros bâtard.
Et voilà, ça, c'est vraiment, ça reste quand même une série culte, pour qu'au point qu'ils en aient fait un film avec Nicole Kidman, qu'elle ait osé accepter.
Oui, c'est fou. Alors du coup, voilà, le film avec Nicole Kidman, je sais pas si du coup, qui l'a vu.
Moi, je l'ai vu.
Moi, je l'ai vu en partie, ouais, pas en entier. Ouais.
Et vous en avez pensé quoi?
C'était là pour le coup, ça, il y a rien qui marche. Enfin, le peu qui m'a raccroché là en regardant la série et tout, là, il y a rien qui marche, quoi. Enfin, déjà que je suis pas hyper fan des, là, c'est mon problème, mais je suis pas hyper fan des acteurs séparément. Mais là, Will Ferrell en plus, enfin, c'est
pas possible.
C'était pas possible, quoi.
C'était pas possible. Will Ferrell.
Mais du peu que je m'en souviens, j'avais trouvé ça pas drôle, ce qui est un peu dommage pour un film qui reprend une série comique, quoi.
Eh ben c'est une comédie. En fait, au lieu d'en faire une série comique, ils en ont fait une comédie romantique, tout simplement. Même juste un film romantique avec... Mais Nicole Kidman, elle est pas drôle.
C'est ça, il n'y a pas de, y a pas de côté drôle dedans.
Alors peut-être un tout petit peu, sûrement un tout petit peu, parce que ça joue sur les malentendus de Jean-Pierre qui ont de... C'est plus les histoires du début, en fait. Comment Jean-Pierre essaye de conquérir Samantha, mais en fait, et de Samantha, du coup, qui lui cache qu'elle a une sorte. Enfin, bref, on est sur un truc qui n'est pas possible non plus de souvenir. J'ai plus l'année en tête, mais qui est, 2005, c'est quand même il n'y a pas si longtemps.
Ouais, c'est ça le pire.
Voilà.
Là, ça prend un plot qui n'existe même pas dans la série, parce que la série commence quand ils sont...
Ouais, il me semble que Ma sorcière bien-aimée, c'est...
Attends, c'est durant les 5 premières secondes, enfin les 5 premières minutes, où ils se disent, bon, il a rencontré cette fille, ils se sont vus une fois, puis deux, puis trois, ils se sont mariés, et bam, c'est la nuit de noces.
Ça raconte l'histoire qu'on nous avait pas racontée
au
départ.
Ah non, en fait, non, je me trompe. C'est terrible, en fait. Ils essayent d'adapter Ma sorcière bien-aimée dans une nouvelle version. C'est ça, en fait. C'est ça l'histoire du film.
Ah oui, si.
Le cerveau et la mémoire a ça d'exceptionnel d'effacer tout seul des choses
mauvaises.
Voilà, c'est fou parce qu'en fait on l'a tous vu et on s'en rappelle à peine.
Mais c'est ça, je suis très content d'avoir vu en partie ce film et de plus du tout me rappeler.
Merci.
C'est un film super méta quand même quand on y pense. Hein.
Ouais, c'est ça, ils essaient de faire le remake c'est de ça. Ma sorcière bien-aimée et puis elle en fait. Ah, mais mon Dieu, c'est une sorcière.
C'est incroyable. Oh là là, en fait, elle a existé pour de vrai.
Comme la vie est bien faite.
Voilà. Non, voilà. Moi, je pense que en vrai, ce serait pas. Par exemple, c'est pas quelque chose que je montrerais à mes enfants, parce que, ou alors simplement pour leur dire, voilà comment traiter les gens.
Ne faites pas ça.
Voilà, ne faites pas ça. Simplement, je pense que c'est une pièce de musée. Ma sorcière bien aimée aujourd'hui. Moi, ça me dérange un peu que ça soit continue d'être diffusé sur YouTube notamment. Donc, c'est quand même
Pour les enfants.
Hein. Voilà, c'est destiné à des enfants, en tout cas ça a été en tout cas jusqu'à récemment diffusé sur Gulli à l'heure de la prime. Aujourd'hui moi je pense que c'est une série qui est bien là où elle est, qu'elle est en 1964, qu'elle y reste, elle est divertissante, elle est avec des acteurs qui sont chouettes et une osmose clairement entre les acteurs qui marche très bien. Maintenant voilà, faut plus la voir comme une pièce de musique, c'est rien à regarder.
Bien, bah merci pour ce petit récap de Ma sorcière bien-aimée. On peut en avoir un bon souvenir et comprendre que en fait, bah, c'est bien que ça reste un souvenir.
Ben non.
Exactement, voilà.
Mais alors, je dis peut-être une grosse bêtise, mais ils ne parlaient pas d'un reboot l'année dernière ?
Alors, ils ont parlé d'un reboot en 2014 et ensuite en 2018. La première fois en 2014, c'était un simple. En 2018, ils ont annoncé un reboot avec un couple mixte. C'est comme ça que ça avait été annoncé. On est toujours sur des non-nouvelles. Voilà, je crois que c'est un peu un dossier épineux, que les gens voient le potentiel parce que c'est hyper connu, mais en attendant, difficile de traiter ça. Comment moderniser une plotline où la base, c'est Jean-Pierre qui veut pas que Samantha ait des pouvoirs compliqués.
Ouais, c'est ça. C'est pas voilà. Là, ils parlent d'un article, ils disent sorcière, hein, Samantha, mère afro-américaine, c'est tout ce qu'ils disent.
Voilà.
Voilà comment ils veulent moderniser, quoi.
Voilà, c'est ça. On a mis une noire, alors non.
Voilà.
Non.
Alors, on lance le dé. Elle sera noire ou lesbienne ? Voilà. Alors.
Peut-être c'est ça. Voilà. Bah, peut-être même les deux.
Oh, on est tombé sur le vin. Bravo.
Le Graal. Simplement aujourd'hui, si on veut peut-être se regarder une série qui ressemble un peu, bah c'est faut aller dévorer Sabrina l'apprentie sorcière version Netflix. C'est chouette. Elle est moderne. Elle est. Elle. Si on aime les sorcières et qu'on est plutôt jeune. Faut peut-être plutôt s'orienter vers ça.
Mais en plus, tu parles de sorcière, c'est vrai que là, on a parlé que du côté de l'aspect, on va aller vite parce que c'est pas non plus le plus important, mais c'est vrai que ça reste une sorcière. Et par exemple, l'épisode où j'ai vu avec Tabata, c'est quand même, elle explique donc que ses parents vont avoir un enfant. Donc c'est toute l'histoire, toujours comme dans tous les sitcoms, de l'enfant qui a peur du nouvel enfant. Et en fait, elle dit aux parents, Tabata, « Ah, mais je vous ai entendu, vous voulez un garçon, parce qu'en fait, vous préférez un garçon que les filles. » Et du coup, les parents, ils sont un peu « Bah non, en fait, on parle des prénoms et tout, ils parlent des prénoms, on aura ce qu'on aura. » Et elle, la Tabata, elle part « D'accord. » Et un peu, elle fait un peu la gueule. Elle va dans sa chambre quand même. Elle ouvre Jack et le haricot magique. Et en fait, elle fait sortir Jack du livre pour rentrer à sa place dans le livre. Elle lui dit, va, mes parents, ils veulent un garçon, t'y vas. Et en fait, après, elle se retrouve dans le livre, sa mère va la chercher dans le livre, quand même, tu vois, donc là, tu te retrouves dans une scène un peu, t'as l'impression d'être dans l'histoire sans fin en termes de qualité, hein. Mais t'es dans un truc un peu magique où il y a un nuage avec un immense truc et tout machin, il y a un géant, Tabata, elle a transformé le géant en nain,
Enfin, il y a tout un truc un peu délirant autour de ça. Tu as même une fermière qui est là et tout. Bref, et tu dis, ah ouais, en fait, ils ont des pouvoirs de fou, quoi. C'est charme.
Non,
à
mais
côté,
c'est ça, ils sont super
sûr,
forts. Et du coup, c'est absolument pas utilisé à part
pour c'est
faire
ça.
la vaisselle.
C'est utilisé pour faire la vaisselle, quoi. Et, voilà. Et pour passer, pour faire leur passage.
Juste pour conclure, est-ce que je peux juste vous lire une critique sur Allociné d'une personne qui a noté 5 sur 5 Ma sorcière bien-aimée.
Vas-y. Yeah.
Oh, oui.
Le film ou la série?
La série. Alors déjà, la première phrase est très drôle. Vive les années 60, même si je suis né en 83.
Allez.
Et ça dit, en effet, j'ai redécouvert cette série qui, ma foi, est très vieille, mais n'a pas pris une ride. Le commentaire date de 2006. Hein. Je la trouve très accrocheuse grâce à la charmante sorcière bien-aimée. Le seul reproche, c'est que c'est parfois répétitif. Mais bon, c'est mieux que certaines débilités qu'il y a aujourd'hui. Pour ceux qui aiment bien les bons vieux trucs, regardez ma sorcière bien-aimée.
Voilà, on les terminera sur les commentaires de qualité à l'océan. Ouais. Merci.
Bon, je me devais de partager ça avec vous.
Bon. Merci Romain, c'était la meilleure façon de conclure pour cette série. Et enfin, il nous reste notre oncle à aller voir. Donc voilà, moi je vais vous parler des agents très spéciaux, ou en anglais The Man from Uncle, qui était donc une série d'aventures et d'espionnage qui a duré 4 saisons, qui était diffusée sur NBC. Et là où les saisons 1 et 3, 1 à 3 faisaient une trentaine d'épisodes chacune, pour la dernière, on a eu droit qu'à 16 épisodes parce qu'ils se sont dit en cours de route, non mais en fait on va s'arrêter là, on va arrêter. Du coup, il n'y a pas, je spoil un peu après, il n'y a pas de fin. Hein, très clairement, ils ont fait des épisodes, mais de toute façon, il n'y a pas de fil rouge, donc il n'y avait pas tellement de besoin de clôturer. Donc, l'histoire de la série, c'est quoi? C'est deux espions, Napoléon Solo, qui est joué par Robert Vaughn et dont le nom a été inventé par Ian Fleming, dont je parlais tout au début. Et son acolyte, Ilya Kurakin, qui est joué par David McCallum. Et les deux font partie d'une organisation mondiale qui s'appelle UNCLE, pour United Network Command for Law and Enforcement, donc commandement uni du réseau pour la loi et son application.
Oh my god.
Oh my god.
Ah, j'ai envie.
c'est une organisation mondiale, donc qui prend des agents secrets d'à peu près tous les pays. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve, malgré un contexte assez guerre froide, avec un Américain et un Soviétique. Et ils combattent divers ennemis de l'ordre mondial, dont un récurrent qui est Trash, pour Technological Hierarchy for the Removal of Undesirable and the Subjection of Humanity. Ouais, en gros, en français, c'est le vautour. Hein. Il fallait un méchant avec un nom qui claque et avec un acronyme pareil que Uncle. Donc la série, en tout, elle a fait 105 épisodes. La première saison était en noir et blanc, les suivantes sont en couleur. Ceci dit, on a plusieurs épisodes qui ont été tournés quand même dans la première saison qui étaient en couleur, le pilote et l'épisode 8, le mystère de la chambre forte, parce que ça leur permettait de faire des films. En fait, ils sortaient au cinéma certains épisodes de The Man from Uncle, notamment... les épisodes ensuite qui sont les épisodes doubles, comme ça ils avaient directement la bonne durée pour faire un film, même s'ils rajoutaient parfois quelques petites scènes. Et donc au final, il y a eu 8 films qui ont été distribués par MGM au cinéma. Et j'en ai vu pas mal. Donc on a le pilote, on a quelques épisodes et on a jusqu'à l'épisode final. C'est pour ça qu'il y a 16 épisodes dans la dernière saison, c'est qu'ils ont coupé à 15, mais ils se sont dit non, mais il nous faut un dernier film pour rentabiliser un peu. Donc c'est pour ça, c'est un double épisode, ça donne 16.
Ok.
Dans les guests, on a pu retrouver un Kurt Russell enfant, mais aussi le premier épisode commun de William Shatner et Leonard Nimoy, qu'on retrouvera plus tard dans Star Trek en tant que Capitaine Kirk et Spock. Pour le pilote que vous avez dû voir, on a Uncle, l'organisation qui se rend compte qu'il y a un industriel du nom de Vulcan, qui envisage potentiellement de tuer le premier ministre d'un pays africain fictif. Donc ils envoient Napoléon Solo pour arranger la situation, et pour qu'il puisse s'infiltrer auprès de Vulcan, ils lui disent « Ah bah tiens, pendant son adolescence, quand il était au lycée, il était amoureux de cette demoiselle qui maintenant est mariée et a une vie bien tranquille dans la banlieue. » Du coup, il va la chercher Bon, Napoléon Solo, il n'a pas tellement de problèmes pour convaincre les demoiselles. Hein,
Bizarrement, elles sont très faciles à convaincre à cette époque-là. Wow.
Très facile.
Je vais prendre un truc dans le temps, moi. Je reviens. Je...
Ah non, mais vraiment, déjà, il rentre dans une pièce, toutes les filles le regardent, et s'il n'y en a qu'une, elle va finir 2 minutes après avec les bras autour de son cou en disant « Ah oui, Napoléon, parle-moi encore !» Et c'est très impressionnant. Mais donc, voilà, il utilise, donc il enlève. Elle est d'accord pour participer, pour avoir un peu d'aventure dans
Qu'est-ce qu'il enlève ? Mais il lui enlève quoi ?
Il l'enlève, elle. Et il l'enlève donc à la rencontre de ce monsieur Vulcan. En la faisant passer pour une riche veuve. Et donc, vu que lui, bah, oh là là, c'est son amour de jeunesse et que maintenant, il se sent très seul, il lui permet d'arriver dans sa vie. Bon, après, on a le schéma très classique. On ne va pas se mentir. Dans Uncle, on a en partie 1, identification de la menace. En partie 2, Solo qui se rend compte « Ah, cette femme peut m'aider à avancer dans mon enquête. » Partie 3, Solo et la demoiselle vont chez les méchants et « Oh non, ils se font capturer. » Et partie 4, Solo se fait magiquement libérer et il arrange toute la situation. Après, dans la série, dans le pilote, on voit très peu Ilya Kurakin. Dans les épisodes suivants, alors vers le milieu de la saison 1, il commence à vraiment à prendre de l'ampleur. Et là, souvent, c'est lui qui permet de libérer Napoléon Solo. Ou alors, ils sont chacun séparés et ils vont arriver à se retrouver tout à la fin pour pouvoir sauver tout le monde. Et c'est magique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette série, de ce pilote. Est-ce que ça vous a plu ?
Bah, moi, pas vraiment. J'ai un moment qui m'a fait beaucoup rire quand même, parce que quand le méchant, il dévoile tout son plan. Alors, tu vois, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre la porte à clé, puis ensuite, on va aller... Non, mais c'est génial. Enfin, genre, le méchant qui donne... Est-ce que c'était la série originelle où le méchant, il donne tous ses plans aux victimes juste avant de les tuer ? Je suis pas sûre.
ça se fait aussi dans les James Bond, beaucoup. Dans les films de James Bond. Ah ah, monsieur Bond, je vous ai eu. Maintenant, je peux vous dévoiler mon plan, Machiavelli.
Ben déjà c'est une série de 50 minutes quand même pour le pilote en tout cas j'ai trouvé ça très ennuyeux personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, que c'est pas super bien joué, c'est même un peu surjoué, et puis je trouve qu'on n'y croit pas trop quoi, genre ça a quand même pas moi super bien vieilli.
Ben, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la défense, ou est-ce que je m'en occupe ?
Eh ben, moi, je viens prendre la défense parce que, à contrario, eh ben, j'ai trouvé ça pas mal. Même si le côté voilà, de la... Qu'est-ce qu'il y a ?
Non, j'ai rigolé, ça m'a fait rire.
Ah, ok. Non, à contrario, tu vois, si on fait vraiment abstraction de la Wing Woman, juste complètement accro de Napoléon, enfin bref. Moi, j'ai trouvé que, justement, en termes d'action, les 5 premières minutes m'ont scotché. Parce que je trouvais ça fascinant, en fait, les petits effets spéciaux qu'ils ont mis, ça fait ultra rétro et c'est kitsch au possible. Mais ça faisait vraiment, ouais, bonne, enfin, pas bonne série d'espionnage, mais ça donnait un petit côté rétro que j'ai beaucoup apprécié et que il n'y a plus forcément l'habitude de voir maintenant avec les gros films. Mais, tu vois, on parle de James Bond, genre les nouveaux James Bond, par exemple, les prochains qui vont sortir. Enfin, à chaque fois, ce sont des effets spéciaux qui sont spectaculaires. Tu as pas mal de fonds d'écran. Enfin, tu as pas mal de choses qui sont faites en effets spéciaux sur les ordinateurs. Et là, en fait, tu en reviens à des choses beaucoup plus classiques et de l'ancien temps. Et c'est ce petit côté qui m'a plu en termes d'espionnage. Après, on est d'accord, 40 minutes, c'est long. Et c'était assez singulier d'avoir ce découpage comme ça en 4 parties, mais c'était pas non plus déplaisant. Je pense pas que je regarderai 36 épisodes, mais au moins j'ai été surpris par le pilote, je connaissais pas du tout pour ma part, c'était vraiment une véritable découverte. Et voilà, le truc qui m'a vraiment appâté, c'était voilà, le petit côté kitsch pour les effets spéciaux en termes d'espionnage, c'est tout.
Vous voyez que je ne connaissais pas non plus, à part de nom, et pour une raison très précise, c'est que en tombant sur NCIS un jour avec mon papa, il a vu Ducky dans NCIS, il m'a dit « Ah, c'est le mec des agents très spéciaux !» Et je l'ai regardé, j'ai fait « Quoi ?» Et maintenant, parce que d'autres, la vie de l'homme qui joue Ilya Kuliakin, donc un russe, enfin un soviétique, avec un accent pas crédible du tout. Donc, maintenant, le médecin légiste dans NCIS depuis presque 15 ans maintenant. Et j'avais vu Robert Vaughn dans Les Arnaqueurs VIP. Donc voilà, je connaissais les acteurs séparément et beaucoup plus vieux. Et donc, j'ai pu découvrir la série qui les a fait connaître dans leur jeunesse. Greg, toi, tu en as pensé quoi de cette série ?
Bah, moi, je rejoins un peu plus ce que disait Lalou. j'ai un peu... Alors, c'est peut-être le style aussi et tout ça, mais en fait, on est déjà... À la fois, on est en 64, comme disait... On est en 64, donc on sait ce qu'on va voir, on sait qu'on est dans un truc plus posé, on n'est pas sur le James Bond actuel et tout ça, comme disait Romain, on est dans un truc plus posé. Et en même temps, on est déjà en 64, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il y a des plans, les plans serrés sur les personnages, des ralentis, des jeux d'ombre et tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, on est face au troisième homme, le film avec, avec Orson Welles. Ce truc un peu espionnage, un peu noir, un peu tout ça. Mais sauf que ce film-là, il était sorti 15 ans avant, quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis à la fois dans un truc qui est d'époque, mais qui est déjà daté pour son époque, et qui, en fait, parfois jongle un peu entre justement un truc... parce que toi, tu parlais tout à l'heure, Romain, d'action. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec cette action un peu lente, un peu cheap. C'est
forcé,
Ouais, un peu forcé. C'est-à-dire que là, tu vois, la première scène, quand le mec lui tire dessus et que l'autre, à travers le miroir, je me dis, ah, c'est cool, c'est assez joli. Puis deux secondes après, il va continuer à lui tirer, il est à 2 mètres de lui, et l'autre, il va sautiller comme si c'était un cartoon, tu sais, genre, hop, j'évite les balles, hop. En fait, et là, je me suis dit, en fait, ça, je suis dans OSS. Non, moi, ça m'a fait rire, sauf qu'en fait, je me suis dit, c'est drôle. Et en fait, quand tu lis des trucs sur la série, tu dis, en fait, au début, ils se prenaient beaucoup plus au sérieux parce qu'ils ont dit qu'en saison 3, et moi, j'ai regardé du coup. Un épisode de la saison 1 parce qu'ils ont dit en saison 3 ils ont essayé d'assumer être beaucoup plus OSS et d'essayer d'être de second degré, et tu le vois tout de suite parce que la musique est pas la même, parce que la musique, pour le coup, moi la musique je l'aime vraiment bien, c'est un point positif que j'ai dans cette série, c'est que en plus elles ont été nominées pour les Grammy, la musique et tout ça, tu la sens, elle est là, elle est très stylisée de l'époque et tout ça machin. Ouais. Et en fait en saison 3 tu passes dans les premières saisons d'un truc un peu sombre, parfois un peu noir, très très lent et tout ça, et à la saison 3 en fait c'est une fanfare. Et ça part, machin. Robert Vaughn, il fait des sourires tout le temps, il fait limite des clins d'œil. Et là, t'es dans OSS. Et en fait, quand tu lis ce que disaient les scénaristes d'époque, tu dis, en saison 3, ils ont voulu prendre un tournant rigolo parce qu'ils sentaient que les audiences baissaient, qu'il fallait relancer la machine. Et en fait, ils ont arrêté dès la saison 4. Ils ont essayé de reprendre le truc sérieux. Et en fait, tu dis, alors ce que j'ai vu en pilote devait être sérieux, mais ça m'a fait rire. Bah du coup, ils m'ont raté. Moi, ils m'ont raté en tout cas. Ils m'ont raté là-dessus. Sur ça, en fait. Et du coup, et en plus, excusez-moi, on est encore dans les années 60 et effectivement, on en a parlé. On va pas en rajouter une couche au millefeuille, mais là, le coup.
Oh mon Dieu, des manteaux de fourrure. Oh là là, et de la parure de bijoux. Oh mon Dieu, c'est trop beau.
C'est ça. Et puis aussi, le rôle des femmes. Je veux dire, on a beau être en années 60, mais par exemple, au bout d'un moment, tu as quand même Robert Vaughn qui appelle la standardiste de Uncle et elle est en bikini.
Oui, et là, tu fais ça. Ah ouais, ça m'a fait tilter aussi.
T'as signé pour ça, toi. Alors, du coup, encore la cible est ratée, dans le sens où ça aurait pu être drôle si c'était OSS, mais c'est pas censé être OSS, c'est censé être plus un James Bond un peu sexe. Sexy, genre je l'ai fait tout tomber, le regard à la fin du pilote, je sais pas si avec la vous savez avec l'hôtesse de l'air.
Si, oh là là,
la violence, affreux. Le porno, j'étais dans un porno quoi.
Non mais c'est horrible. Ça. Quand même quand on y pense, c'est quand même un mec qui débarque chez une meuf et qui lui dit vous pouvez seul vous pouvez sauver cet homme et ce pays, il faut que vous preniez l'avion avec moi même si vous me connaissez pas. Et elle fait oh non c'est impossible et genre 2 secondes plus tard dans l'avion.
Mais c'est
enfin genre c'est pas possible tu vois. Enfin, c'est le seul moment vraiment drôle de la série, mais comment une meuf... Enfin, bref, c'est absurde.
Ouais, c'est ça. Et dans l'épisode 3 que j'ai vu, justement, j'ai regardé un épisode de la saison 3, pardon, et d'un moment, donc, on voit... c'est Oleg Koryakin, c'est ça? Excusez-moi, je ne me rappelle plus de tous les noms. Bref, on le voit, lui, et il veut mettre un micro dans une maison et tout. Alors, c'est en plus avec des Italiens, je vous raconte même pas, j'avais l'impression d'être dans, vous savez, dans les Animaniacs avec les pigeons italiens énormes qui font des blagues. J'ai l'impression d'être là. Il y a cette espèce d'énorme Italien qui s'est fait tirer dessus, et autour de lui, il a des mecs, ou dans les Simpsons, j'avais l'impression d'être dans cette caricature-là. Mais c'était là, pour le coup, c'était voulu, parce que là, la saison 3, il voulait ça. Et il y a donc Oleg qui va mettre un micro, et au bout d'un moment, on voit les pieds d'une femme, on remonte sur le corps de cette femme avec les petits bruits de genre. J'étais dans Tex Avery et j'étais là, je fais ah ouais, d'accord, ok, c'est complètement assumé. Et là, par contre, c'est. Et lui dit je suis le je vais vous le faire avec l'accent marseillais parce que ça m'a fait penser à ça. Je suis le réparateur de la piscine. Et là, tu dis je viens pour colmater la fuite. Et là, tu dis c'est assumé, mais c'est ouais, mais on est dans un truc d'espionne. Enfin, ouais, d'accord, je sais pas où ça a vrillé. Mais soit j'étais pas dans le bon mood pour me dire c'est drôle et c'est cool, soit j'étais pas du tout la cible et puis tant pis, hein, c'est pas... Voilà quoi.
Au final, je crois que j'ai pas vu beaucoup d'épisodes de la saison 3, j'ai surtout vu... En fait, j'ai vu pratiquement les films qu'ils ont fait, qu'ils ont exprès. Donc les doubles épisodes, il y en a pas. J'y arrivais peut-être un de la saison 3 et au final, j'ai pas dû le voir. Mais en fait, la série qu'ils voulaient copier, c'était Batman.
Oui, c'est ce qu'ils avaient dit, ouais.
C'est cette série-là qui marchait bien. C'est Batman, donc ce Batman 66, très, très décalé. J'ai hâte qu'on tombe sur 66 pour la voir, parce que je ne l'ai toujours pas vu. Et le spray anti-requin m'attend et m'attire énormément. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la coiffure de Robert Vaughn, son regard ou quoi. Mais moi, je le trouve excessivement charmant, beaucoup plus qu'un James Bond de maintenant. Là, le côté nonchalant de « je drague la fille », mais « oh, elle dit oui, c'est cool ». On passe du bon temps et puis je continue. Je sais pas, ça m'a convenu. Après, je trouve que le pilote vend mal la série, et encore parce que c'était ce qui était prévu au début. Hein. Le titre anglais, c'est bien The Man from Uncle. Il y a un seul homme, c'est Napoléon Solo. Mais au final, la série, c'est les deux, c'est Solo et Kuliakin, qui s'est imposé au fur et à mesure parce que le côté blond, ténébreux. Soviétique, énigmatique, a beaucoup plu à ces dames, beaucoup plus au final que Napoléon Solo, alors que c'est lui normalement qui ramasse. Donc c'est assez marrant de voir voilà, que McCallum à l'époque était vraiment l'icône sexy de la série. C'est assez marrant. Mais moi je trouve que, enfin, moi la série a marché sur moi, le côté aventure, venez mademoiselle, on part à l'aventure ensemble, on va affronter les méchants, bon on se fait capturer mais on arrive à se libérer toujours d'une façon très très alambiquée, ça marche. Et dans tous les épisodes, on a toujours cette personne, souvent une femme, hein, qui va les accompagner, parce que sinon, ce serait juste deux espions ensemble qui font leur mission super élaborée et tout. Ouais, on est les meilleurs. Alors que là, non, à chaque fois, ils ont quand même quelqu'un de naïf avec eux pour nous jouer, nous, en fait. C'est nous qui les accompagnons dans leur mission et tout n'est pas si simple. Il faut qu'ils prennent en compte quand même ça, c'est cette personne extérieure. Et c'est ça souvent qui fait qu'ils se font capturer comme des loups. C'est bon, Napoléon, à chaque fois, il se fait choper, quoi. À chaque fois, il finit ligoté. C'est pas possible, quoi. À un moment, démerde-toi mieux. T'es censé être le meilleur, mec. Fais quelque chose. Non, après, on a beaucoup d'intrigues classiques de ce type de série. J'ai vu un épisode où les méchants... Thrust, ils ont créé un double de Napoléon Solo et ils le remplacent, sauf que bon, Ilian Kuliakin, il s'en rend compte, donc c'est bon, ils arrivent à supprimer le double et à remettre le vrai dans le droit chemin. Sinon, les méchants, classiquement, ils veulent dominer le monde, et donc ils essayent de voler un truc qui leur permettra de dominer le monde, ou ils kidnappent quelqu'un qui sait faire un truc qui permettra de dominer le monde. Ou alors, on a aussi un épisode où Napoléon Solo, oh mon dieu, il a perdu la mémoire. Non, mais vraiment, on a des très grands classiques de la chose. Mais enfin, moi, franchement, c'est le seul bémol de la série, c'est que c'est ultra répétitif. Vu qu'il n'y a aucun fil rouge, parce que même le combat contre Thrush, ça n'avance pas. Ils arrivent à éliminer une menace, mais il y a toujours une nouvelle menace qui arrive après. Même si c'est la même organisation, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait eu quelqu'un qui ait été battu avant. Enfin, voilà, c'est la roue perpétuelle. Et ça fait aussi, donc, il n'y a pas de fin à la série. Le dernier épisode, c'est un épisode classique, sauf que vu qu'ils ont voulu faire un double épisode avec un scénario qui n'était prévu que pour un seul, l'épisode final est vraiment très, très long. J'ai trouvé, et surtout parce qu'au final, il n'y a pas tant de scènes que ça pour Solo et Kuliakin. Il y a pas mal de scènes avec les personnages secondaires ou les méchants. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Nous, on a envie de voir les héros, quoi, les héros qui se battent. Les héros qui se battent contre des méchants qui ne savent pas tirer, qui ne savent pas viser. Ils tirent toujours 46 000 balles à côté. Et par contre, eux, ils tirent une balle et ça vise et ça tire pile au milieu, quoi. Ça, c'est aussi le grand classique. De ces films-là et de ces séries-là. Et enfin, même si la série n'a pas eu de fin, elle a eu deux choses. Elle a eu une série dérivée, A Girl From U.N.C.L.E., qui est sortie en 66, mais qui n'a duré qu'une saison, hein, ça n'a pas marché du tout. Et il y a eu surtout un téléfilm qui est arrivé 15 ans plus tard, avec Return from the Man from U.N.C.L.E., The 15 Years Later Affair, qui reprend les deux personnages principaux avec les deux acteurs originaux. Par contre, le chef de l'agence Uncle a été remplacé par Patrick McNee parce que l'acteur original est décédé. Donc, on a un nouveau personnage, ils en parlent un petit peu. Et donc, Patrick McNee, c'est John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. Et on a également dans ce téléfilm, on a un petit clin d'œil avec un ancien James Bond qui vient avec une... Il a sa voiture... alors voilà, la marque de la voiture, évidemment, ne me revient plus parce que je suis très nulle en voiture.
De James Bond ?
Ouais.
Aston Martin ? De James Bond, tu disais ?
C'est ça, ouais. Il y a George Lazenby, celui qui a fait le... C'est lui qui a fait qu'un seul...
Non,
c'est l'autre. C'est,
je suis nul en James Bond.
C'est Timothy Dalton, je crois qu'on a fait qu'un. Et bon, là, c'est George Lazenby qui vient dans son Aston Martin avec marqué GB dessus. Et il sauve la situation. À un moment, il y a une course-poursuite en voiture où Napoléon Solo est un peu en galère. Et donc, forcément, GB, il arrive et il le sauve. Donc, c'est un petit clin d'œil, c'était sympa. Le téléfilm est vraiment... C'est sympathique, je pense, pour les gens qui n'avaient pas vu la série depuis 15 ans, qui voient réapparaître les acteurs, surtout que bon, Robert Vaughn, pour le coup, il a pris un petit coup de vieux. À un moment, il y en a un qui lui demande d'ailleurs « Mais comment faites-vous pour rester aussi jeune ?» Et il fait « Le maquillage !» avant de lui taper dessus. Ça m'a fait bien rire. Mais bon, on voit quand même qu'il est... les tempes ont bien blanchi. Et pour le coup, ils lui font galocher des femmes, mais plus âgées. Elles sont pas, ils continuent pas à rouler de la jeunette, donc ça m'a fait plaisir d'un côté. Bon, par contre, Ilya Kuliakin est devenu, en fait, les deux ont quitté Uncle et donc ils doivent revenir parce que Trash revient et les deux ont quitté donc totalement les affaires des services secrets. L'un est devenu comment dire, il habille des top modèles, il fait de la haute couture, mais c'est Ilya. Alors que normalement, ça aurait dû être Napoléon Solo. Mais visiblement, Robert Vaughn a dit « Non, mais ce serait plus sympa que ce soit inversé, que moi, je travaille dans l'informatique et que lui, il habille des super top modèles. » Et ça donne une scène un peu bizarre, du coup, où Robert Vaughn arrive dans la partie arrière du défilé où toutes les filles sont en train de se changer. Et donc, il se cache les yeux, mais pas trop, en disant « Non, non, mais je ne vois rien, mais dites-moi où est mon collègue ?» c'est tellement creepy, mais d'un autre côté il est vieux, il est face à des jeunes et tu vois qu'il se cache les yeux en disant ah non non mais je ne vois rien. Mais enfin voilà, après c'est l'action, c'est un épisode pareil assez classique. Et ce qui est dommage, c'est que au final ils interagissent très peu parce qu'ils nous les montrent tous les deux séparément dans leur nouvelle vie. Et le temps qu'ils se retrouvent, ça prend beaucoup de temps par rapport. Enfin, ça prend pratiquement la moitié du film, ce qui est un peu dommage. Franchement, ça pouvait être expédié en 2 minutes. Et après, on les retrouvait faire vraiment l'enquête ensemble. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette série. J'ai bien aimé même le téléfilm. Par contre, le truc que j'ai pas du tout aimé, et je sais pas si vous l'avez vu, c'est le film de 2015.
Alors non.
Pas du tout.
C'est présenté comme une adaptation. Hein. Ça a été réalisé par Guy Ritchie. On a Henry Cavill dans le rôle de Napoléon Solo et Armie Hammer dans le rôle d'Ilya Kuliakin. Et c'est simple, la ressemblance s'arrête là. C'est juste le nom des acteurs. Parce qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre la série et le film. En gros, le film, c'est un agent de la CIA et un agent du KGB qui doivent se mettre ensemble pour réussir une mission avec une nana. Donc, dans l'idée, c'est un peu ce qui se faisait dans la série, mais sauf que là, Uncle n'existe pas, ça va être créé tout à la fin, parce que vu que leur association avait bien marché, bon, ben, on va leur donner un nom de code à leur équipe, et c'est Uncle, mais ça n'a aucun rapport. Et puis alors, Henry Cavill, donc Napoléon Solo, il n'est pas du tout agent de base, c'est un voleur, mais la CIA l'a recruté parce qu'il s'est fait arrêter et qu'il était doué. Et Kuliakin, là où normalement c'était le mec un peu ténébreux, mais très calme, très posé, très dans la réflexion, là c'est un mec où dès qu'on lui parle mal, il s'énerve et il tape dessus. Et il en vient même aux mains avec la nana qu'il est censé protéger. Voilà, ça m'a pas fait rire, alors que la série, je trouve qu'elle était quand même pleine d'humour. Ça m'a pas diverti. Non, j'ai pas trouvé ça bien. c'était 2 heures et c'était long. C'était très très long. Et le fait que les scènes d'action soient un peu plus rythmées et un peu plus mieux réalisé que ça pouvait aller dans la série, bah, ça m'a pas convaincu. Ça a pas suffi. Non, je suis la seule à avoir vu ce film, personne n'a vu.
Pense que oui.
Ouais.
Ah, totalement.
Non, mais je pense aussi que ce qui m'aide pas, c'est que je suis totalement hermétique à Henri Cavill. Mais vraiment, pour moi, il dégage rien comme gars.
Mais pareil.
C'est terrible. Alors que voilà, Robert Vaughn, autant j'ai trouvé terriblement charmant. Et là, Henri Cavill, je suis là, ouais, bah ouais, t'es bien coiffé, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était un peu triste. voilà. Pour moi, si vous aimez tout ce qui est un peu action, espionnage, type Mission Impossible, James Bond, tout ça, il y a moyen que vous trouviez... ouais, regardez Chuck, mais bon, vous pouvez regarder The Man from U.N.C.L.E. de la série. Vous pouvez regarder 2-3 épisodes, ça peut vous détendre, mais voilà, c'est pas obligé de regarder les 105. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fini de parler des séries de 1964.
Oui.
Et pour clôturer cette belle année, Greg nous a préparé un quiz.
Oh, un quiz. Ouais. Alors, c'est des petites questions. C'est pour savoir si vous avez bien suivi, si vous avez bien écouté, si vous avez bien vous-même fait vos recherches, tout ça, tout ça. J'ai une petite dizaine de questions sur les séries. Alors, ça concerne que les séries dont on a parlé ce soir et aussi leur adaptation au cinéma un peu.
Je vais être mauvais.
Okay. Donc, vous dites votre nom et après, vous donnez votre réponse, d'accord ?
Allez.
Alors, laquelle de ces séries a eu un film avant la série ?
Cécile. Flipper.
Yeah! Donc c'était Flipper en 1963, donc un an avant la série, et donc il y avait un des acteurs qui était commun sur les deux. Combien d'enfants ont joué Tabitha? La fille de Samantha excusez-moi, je complète. La fille de Samantha dans.
Pauline, 3.
Non.
Ah.
Romain, 2.
Non.
42!
125! Tu dis quoi, Cécile, du coup?
Bah j'ai... Ouais, combien? Non, 6.
Ah, dommage, c'était 5.
Ah,
dommage. Alors ça, je l'ai dit un peu vite, mais combien de dauphins il a fallu pour jouer Flipper?
Je crois que tu l'as dit.
Romain.
Vas-y, Romain.
C'était 5. Attends, 5 ou 6 femelles?
Ah.
Je crois que c'est... Ah, attends.
Fais gaffe, t'as la bonne réponse dedans.
5.
Bravo, on reste sur le 5. Alors... Donc Romain, et ensuite qui, alors là on va aller sur les adaptations au cinéma des séries dont on a parlé ce soir, et ouais, je voulais savoir d'après vous, qui a eu le plus grand nombre de nominations au Razzie Award?
Pauline, Flipper.
Ah non.
Quoi? C'est pas Flipper?
Non, Romain.
Nicole Kidman pour Ma sorcière bien-aimée.
Non, ah j'allais le dire.
Eh ben ouais, c'est ça. Et alors, petit truc bonus, on reste sur la même idée au terme de chiffres, combien ils ont eu de Razzie Award, enfin de nominations?
Romain, 5.
Bah ouais, bien joué. 5 nominations. Maintenant, on va aller dans un truc un peu plus positif. Qui a eu le plus grand nombre de nominations aux Oscars?
Ah, Romain.
Ouais.
La famille Adams.
Ouais, bien joué. En gros, ils en ont un pour chaque film. Alors, c'était costume et décor, donc ça reste quelque chose de là. Mais par contre, il y a eu une nomination au Golden Globe pour Angelica Houston. Pas une victoire, mais une nomination. Dans quel dessin animé tiré de la série qu'on va avoir, Snoop Dogg va-t-il jouer?
Oh, dans quoi il aurait pu jouer? Attends.
Un dessin animé?
Ouais.
Romain.
Adapté de la série.
C'est La famille Adams.
Ouais, c'est ça. Et du coup, à ton avis, il va jouer qui?
Le cousin machin. Ce serait tellement drôle.
Ouais, c'est exactement ça. Snoop Dogg va être la voix de cousin machin. Alors, je ne l'ai pas vu dans la bande-annonce, je ne me rappelle plus l'avoir entendu ou pas ou peu. Mais en tout cas, c'est lui qui va jouer dedans. Voilà.
Oh là là.
Alors. Qui, dans les films tirés de ces séries dont on a parlé ce soir, a eu un caméo de David Beckham?
Ça peut être une autre... C'est peut-être un dessin animé.
Faut penser au pays. David Beckham, il est...
Anglais.
Réalisateur, il est un réalisateur anglais dans les films dont on a parlé.
Cécile, The Man from U.N.C.L.E.
Yeah, non. Guy Ritchie, yeah, bien wesh. qui, dans ces films, a eu une chanson phare interprétée par MC Hammer?
La famille Adams.
Ouais, bien joué. Et donc, pour finir, qui a failli avoir Tom Cruise et George Clooney dans son film?
The Man from U.N.C.L.E.
C'est Guy Ritchie, ouais.
Ouais, c'est ça, c'était ça. Et alors, juste pour une dernière fun fact un peu drôle, je vais vous lire un petit truc.
vous allez voir si vous allez réussir à trouver quel film et quel personnage, d'accord ?
Ok.
Alors, personnage joué en partie par un magicien, je suis connu pour mon doigté tellement légendaire que j'ai pu aussi jouer dans Angel, la série Angel. Romain. Tout d'abord, personnage complet, ouais.
C'est la chose dans La Famille Adams, non ?
Bravo ! Oui,
la chose dans La Famille Adams a joué dans Angel ?
En fait, c'est assez drôle. Je vous finis de vous lire ce que j'avais écrit. Tout d'abord, personnage complet qu'on cache dans ma famille. En gros, dans Chess Adams, c'était un personnage complet. On ne voit que dans ma série et les films mes extrémités. Mon nom est aussi, un film de John Carpenter, donc The Thing. Je suis, et c'est Christopher Hart dans The Addams Family. En fait, Christopher Hart, c'était un magicien qui a joué donc la chose dans La Famille Adams. Il a joué dans les films, mais aussi un des téléfilms. Et après, en fait, en regardant dans sa fiche, il a joué, apparemment, il y avait un personnage dans Angel, où en fait, c'était un corps qui était constitué de plein de parties, mais qui bougeait tout seul. Et apparemment, il a joué aussi une main là-dedans. Voilà.
Wow.
Merci bien.
C'était drôle.
Le mec est connu pour avoir joué des mains. Ok, d'accord. Après les mains de campier, je suis acteur.
C'est ça. Et donc, c'est plus ou moins quand même une victoire de Romain, faut le dire.
Merci bien.
Bravo.
Le titre sera remis en jeu le mois prochain.
Ah, et merci Romain pour cette superbe transition, car oui, notre podcast Rétro Série est un mensuel. Tous les mois, nous allons revenir sur une année sérielle passée. Et pour déterminer l'année du mois prochain, nous allons tirer au sort. Oh là là, le tirage au sort.
La boule noire. Ah non, c'est pas ça.
Donc, c'est très simple. Hein, on a un fichier avec toutes nos années réparties par des lignes. J'ai un site internet où je peux faire un générateur aléatoire. Et donc là, le numéro complémentaire de ce soir est le numéro le 30. Donc, si on va sur le fichier, ça nous donne l'année 1983.
Yeah. Wow. Ça fera moins 21 ans.
Et je venais de naître. J'avais un an.
Ah. on arrive dans notre ère là. On se rapproche un peu plus de nous. Bon, on va pas vous dire les séries qu'on traitera, hein, parce que nous tout est déjà un petit peu noté, mais on va faire un petit choix et puis on vous fera deviner ça au fur et à mesure des semaines pour vous faire attendre jusqu'au mois prochain
sur Twitter.
Voilà, suivez-nous sur Twitter @RetroSeriePod ou alors avec le même @ sur Instagram. Et comme ça, vous verrez toutes nos petites photos previews, vous verrez des petits extraits sympas.
Des petits quiz sympathiques, voilà.
On essaye de vous occuper jusqu'à ce qu'on revienne pour pas trop vous
manquer. Parce qu'on sait qu'on vous manquera.
Ah bah évidemment, on est les meilleurs. Enfin, je veux dire, forcément qu'on va
leur manquer. You know you love me. XOXO.
XOXO. XOXO. Gossip Girl. Et on refinit avec les voix porno comme ça. Oh,
là là.
Vous avez ouais.
Allez. Je suis réparateur de piscine.
Au revoir.
Donc voilà, merci à tous de m'avoir accompagné pour cet épisode.
C'était
avec super.
Plaisir.
Merci
à toi.
Vivement 1983 et on se quitte avec un petit générique de fin. Bisous.
Allez.
La bisette.
Bisous.